Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous remercie de votre présence. Je profite parce qu'à chaque fin de conseil municipal, je me dis j'ai oublié quelqu'un. Donc là, j'y pense. Donc je le dis en premier. Je remercie Stéphane de s'occuper de la technique. À chaque conseil, il est là, fidèle. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Alors, on va démarrer le conseil d'une manière un petit peu particulière par ce qu'on a appelé entre nous un pré-conseil municipal. C'est-à-dire qu'on profite d'être tous réunis là, d'avoir des membres éminents de la société civile diolfitoise pour aborder un sujet de manière un petit peu moins formelle qu'en conseil municipal. C'est-à-dire que ça permet une intervention un peu plus libre de citoyens, soit à l'intérieur d'un groupe de travail, soit vous, si vous avez des questions à poser. Alors, de temps en temps, on vous proposera cette formule en fonction du sujet, donc soit au démarrage d'un projet, pour valider ou non la direction qui est envisagée pour ce projet, comme aujourd'hui, en cours de projet, donc aujourd'hui on va parler de l'éclairage public. Donc on va avoir plutôt une discussion sur ce qu'on pourrait appeler un rapport d'étape, c'est-à-dire qu'il y a eu une réflexion, un groupe de travail avec des élus, des non-élus, qui a réfléchi, qui a proposé une expérimentation, qui a eu lieu donc toute l'année 2021, avec une enquête auprès des citoyens. Et aujourd'hui avec des questionnements sur la suite à donner. Donc on va profiter d'être tous ensemble pour parler de ces questionnements et puis et tenter de trouver des réponses. Voilà, donc on a prévu entre 30 et 45 minutes pour cette partie et puis ensuite on prendra le cours officiel du conseil municipal. Merci. Je laisse la parole à Florence.
Oui, merci Christian. Bonsoir à tous. Donc là, nous sommes trois représentants du groupe de travail ce soir, pour pas démultiplier les prises de parole. Donc je vais commencer par introduire ce diaporama. Je vous propose que si vous avez des questions, vous les gardiez plutôt pour la fin. N'hésitez pas à aller prendre des petites notes, sauf s'il y a vraiment une incompréhension sur un point de détail. Donc il y aura plusieurs parties, donc d'abord une petite page sur le contexte, ensuite sur le bilan de l'année, et puis on arrivera aux perspectives pour l'année 2022-2023. Donc la compétence éclairage public a été transférée à Territoire d'énergie Drôme, qui s'appelait le SDED, c'est-à-dire Service public des énergies dans la Drôme, en janvier 2015. Et là, nos réflexions se base sur le coût des années 2018, 2019 et 2020, pour pouvoir comparer à 2021 et avoir quelque chose d'assez global. Donc l'entretien, il y a deux coûts, il y a celui de l'entretien des luminaires, donc c'est un forfait, c'est fixe, c'est 25,50 € par luminaire, donc ça représente 16 600 € pour notre parc entier de 650 luminaires. Quant à la consommation, qui est donc variable, elle représente 58 € par luminaire en moyenne pour 530 luminaires, soit 31 000 € par an. Et là, je réponds tout de suite qu'il y a une différence. Dans le luminaire, c'est parce que les autres, on les paye en direct sur des réseaux particuliers. Nathalie ?
Un groupe de travail a été mis en place en octobre 2020 avec des élus et des habitants volontaires. Il y a eu plusieurs réunions et visites effectuées sur le terrain. Un premier objectif, c'était de diminuer la consommation énergétique et le coût pour la collectivité. Et le deuxième objectif, c'était d'être fidèle à la charte du parc naturel régional des Baronnies provençales en matière d'éclairage public, à savoir préserver la qualité du ciel nocturne et réduire la pollution lumineuse impactant la faune et la flore. Alors, le bilan de l'année 2021, les actions réalisées à partir de janvier 2021, ça a été l'extinction partielle, mais ça, comme 10 communes de la communauté de communes l'ont déjà fait. Et c'était de 23h à 6h. Et nous, à Dieulfi, on a segmenté en deux zones. La zone centrale étant éclairée jusqu'à 2h du matin, de juillet à novembre. Des ajustements et des corrections ont été effectués suite à des remontées de dysfonctionnement de l'éclairage. Et enfin, on a supprimé 13 luminaires sur l'allée des promenades.
Donc on a réalisé également une action de concertation au niveau du grand public, notamment au moyen d'une enquête sur différents médias, qui a donné d'ailleurs un assez bon résultat puisqu'il y a eu 300 réponses au questionnaire et 90% de personnes qui se déclaraient favorables à l'extinction. On a souhaité aussi célébrer ce ciel nocturne au moyen d'un événementiel le 9 octobre, qui est le jour de la nuit au niveau national. Et donc on a proposé une animation sur l'astronomie qui a réuni une centaine de personnes. Et puis, depuis les actions réalisées au cours de l'été avec ces ajustements, il n'y a plus eu aucun retour négatif. Donc notre réseau et l'extinction fonctionne mieux depuis ces ajustements.
En conséquence, si on regarde la moyenne 2020, 2019, 2018, où c'est pratiquement toujours 31 000 euros de consommation chaque fois, eh bien, on a eu en 2021 38% de kilowattheures donc consommés en moins, donc consommation électrique en ampères. Et puis, on a eu 29% de réduction du coût de cette consommation, la différence étant les 16% d'augmentation tarifaire du SDED de l'année 2021. Donc ça nous ramène la consommation parce qu'on a fait, donc dans l'année 2021, l'extinction nocturne, le début de l'extinction nocturne. Donc ça nous ramène la consommation par luminaire à 42 euros en moyenne et une économie donc 9 000 euros pour l'année 2021 par rapport à 2020.
Donc maintenant nous allons parler des nouveaux paramètres à prendre en compte pour l'année 2022. Déjà au niveau du LED, c'est vrai qu'on pense forcément économie d'énergie, économie d'électricité, de coût on pense LED. Mais en fait, il y a plusieurs études qui montrent que les LED ont un spectre lumineux qui a un fort impact sur la biodiversité et aussi sur notre santé. Donc c'est pas anodin. Et on verra également dans la page suivante que ça a un coût très important pour le remplacement des ampoules. Et le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est cette fameuse hausse tarifaire annoncée de 60 euros.
Voilà, donc l'ASTEN nous a fait le plaisir et la surprise de nous annoncer une hausse tarifaire de 71% sur l'année 2022. Et demain matin, à 9h30, à Valence, ils vont faire une présentation, ceux qui vont bien venir, de leurs explications, qu'ils ont déjà annoncé que c'était lié aux augmentations de tarifs du gaz et tarifs d'électricité, et que quand ils ont voulu renouveler leur contrat, eh bien, ils n'ont pas trouvé l'électricité moins chère que 71% plus chère que précédemment. Voilà. Donc sur cette base-là, vous avez un petit tableau là. Donc à gauche, on voit 2020, on était à 31 000 euros de consommation. En 2021, on est monté à... si on n'avait pas fait d'action à cause des 16%, on aurait été à 36 000 euros. Mais grâce à nos actions, et malgré la hausse tarifaire, on est monté à 22 000 euros. Donc ça, c'est pour 2021. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'année dernière, on a payé 22 000 euros de consommation.
Si on ne fait rien de plus, si, eh bien, on va, entre guillemets, avoir 71% des 22 000, donc les fameux 38 000. Or, l'année dernière, on a quand même, il ne faut pas oublier que l'année dernière, on a éteint relativement tôt dans le centre-ville, puisque c'était le Covid, le confinement, alors que cette année, on souhaite, les commerçants aussi, tout le monde souhaite faire la fête, et donc il faudra quand même les week-ends, l'été, éteindre tardivement. Donc il y aura, en tout cas, il faut craindre, on peut prévoir une augmentation de 70% par rapport aux 22 000, d'où les 38 000. Donc on va avoir au moins 16 000 euros de consommation supplémentaire sur l'année. Donc c'est significatif, très significatif, et on risque de monter à 42 000 si on ne fait pas d'action supplémentaire. Donc voilà, donc c'est le gros sujet. Donc quelles actions va-t-on engager ?
Donc le groupe de travail s'est penché donc sur ces mesures pour limiter le surcoût pour la collectivité. Donc on a quand même réétudié, comme on vous le disait tout à l'heure, le passage des ampoules sodium à des LED, et on a fait le calcul. Si on veut conserver une puissance un peu équivalente et aussi ne pas avoir trop de spectre bleu, il faut, donc on ne peut pas mettre moins de 38 watts pour les LED, et pour cela il faut compter 880 euros hors taxe par luminaire remplacé, parce que on est obligé de remplacer tout le candélabre, c'est-à-dire le mât, la crosse s'il y en a une, le luminaire, enfin tout ce qui attache le luminaire. Donc, on a calculé qu'il fallait 44 ans pour amortir l'investissement. Donc, on s'est dit que cette option, même si elle paraît être ce qui est le plus connu comme solution, on s'est dit que c'était à garder que lorsqu'il y a un luminaire jugé dysfonctionnant, qui est vraiment, voilà, qui n'arrête pas de tomber en panne, comme c'est arrivé par exemple à Régeaubert. Ensuite, nous avons pensé à une deuxième solution qui est déjà utilisée beaucoup en Savoie, qui est la suppression de luminaires, comme nous l'avons commencé l'année dernière aux promenades. Donc la première option, c'est de supprimer un candélabre et on pose un petit regard, ce qui permet une certaine souplesse. Donc celle-là, ça c'est amorti en 5 ans, puisque le coût est de 410 euros. Et la deuxième option, c'est de supprimer uniquement le point lumineux pardon, en gardant le mât. Et là, c'est amorti en un tout petit peu plus qu'un an.
Ok. C'est dans cet esprit qu'on a fait des visites avec des habitants du quartier et des membres du groupe de travail et pour repérer les luminaires en surnom. Alors, on a vu, par exemple, Montée-des-Raymonds, on envisage la suppression de 6 candélabres avec la réparation d'un luminaire déficient qui, pour le coup, lui, est utile. Sur les promenades, le parking des tennis, on propose la suppression des 7 luminaires piétons côté habitation nord. On appelle les luminaires piétons ceux qui sont les plus bas, et donc on propose de garder les plus hauts qui éclairent plus largement. Et puis un luminaire sur deux pour les candélabres doubles du parking. La Croix des Raymonds et Route de Conques, on propose la suppression de 3 luminaires doubles et 2 candélabres redondants. Ce qu'on appelle redondants, c'est-à-dire qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Et enfin, on propose une période d'extinction augmentée en 2022 en faisant un effort sur la périphérie. Et donc en passant l'extinction de 22 heures à la place de 23 heures. Sachant que la meilleure économie d'énergie réalisée est celle qu'on ne dépense pas.
Et donc, nous allons vous parler aussi de l'aspect qualitatif de notre éclairage. Donc, nous avons pensé investir l'économie réalisée en 2021 dans des horloges performantes. Hein, les 9000 euros que nous avons économisés, nous pourrions les utiliser pour cela, car nos horloges sont obsolètes et défaillantes. Il y a des gros décalages horaires qui se créent dans l'allumage, l'extinction, etc. L'avantage, ce serait qu'on pourrait être plus autonome sur les réglages, on pourrait aussi maîtriser les consommations, avoir une vue un peu d'ensemble. On économiserait évidemment de ce fait les interventions extérieures qui sont facturées 100 euros par modification sur une horloge. Donc, si on veut changer une seule horloge, c'est 100 euros à chaque fois. Et on pourrait aussi séparer des réseaux pour une programmation différenciée, parce qu'il y a des réseaux qui ne sont pas du tout pensés en termes d'activité, qui mélangent du résidentiel et puis de la vie festive, enfin avec des commerçants. Donc ça permettrait par exemple la viale, de séparer la viale de la rue du Bourg, qui doit rester beaucoup plus allumée que la viale. Et ensuite, donc, dans les autres améliorations pour l'éclairage, plutôt que de faire une grosse période 23h-6h et puis après 2h-6h, on a réfléchi à quelque chose de plus ajusté, donc avec trois zones principales plus une petite zone. Donc les trois zones principales, c'est l'hypercentre où il y a deux parkings, la Pouilleuse, le Champ de Mars, et toute la rue du Bourg allant de la mairie jusqu'à Châteaurat, plus quelques petites rues adjacentes qui font partie de ces réseaux. Le centre qui représente l'hypercentre plus deux parkings, le parking roue, le parking de la gare, et deux autres zones adjacentes à cet hypercentre, c'est le quai Morin et les promenades nord, là où il y a les boulistes notamment. Ensuite, deux autres. Donc, et là, pardon, pour ces deux zones, après je te laisse la parole, excuse-moi, Nathalie. Donc, il y a plusieurs. On a pensé trois saisons, les saisons moyennes, donc le printemps et l'automne, la saison estivale, avec les extinctions les plus tardives, et l'hiver, où on éteint un petit peu plus tôt. Voilà.
Ok, les horaires peut-être, on peut les découvrir chacun. Enfin, l'esprit en fait du groupe de travail, ça a été quand même d'axer les efforts sur la périphérie et tout en maintenant au maximum quand même l'hypercentre et le centre éclairé les saisons où il y en a besoin.
Et on peut dire évidemment que c'est l'avantage de ces horloges, c'est que ça laisse une grande souplesse et que s'il y a un événementiel, par exemple les marchés sur les quais ou je sais pas quoi, une fête de la Visarte à un moment ou autre, enfin on peut, là on a cité par exemple le 15 octobre, si on veut refaire le jour de la nuit, on pourrait imaginer une extinction totale et au contraire pour la Saint-Sylvestre, garder tout allumé, il y a moyen justement de faire ces petits réglages au cas par cas. C'est des généralités qu'on a essayé de dresser et puis il y a du cas par cas. Dans les améliorations possibles aussi, nous, à force de sillonner, après je te passe la parole, on a essayé, comme on n'arrête pas de sillonner toute la ville et on regarde le réseau, ça nous permet de signaler, de faire remonter des dysfonctionnements aussi de... justement de candélabres qui ne fonctionnent pas. Et dans nos principaux objectifs pour l'année en cours, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, c'est que la mairie s'empare aussi de cette loi de 2018 qui oblige les entreprises privées à faire une extinction nocturne, hein, à une heure au-delà à la fin de la fermeture de l'activité, ou maximum à 1 heure du matin. Donc ça, ce n'est pas encore appliqué à Diolfi, donc on fera ce rappel et on négociera avec les entreprises si nécessaire. Je crois que c'est terminé. Donc, si vous voulez en effet poser vos questions, donc Patrice, si tu veux, je te
prie. Oui, merci. La question, c'est le cinéma est dans quelle zone ?
Alors, en effet, malheureusement, le cinéma c'est rattaché à la zone périphérique résidentielle. Donc, c'est un peu l'inconvénient du cinéma, en effet, parce que ça implique toute la rue Basse, la rue du Saint-Velas, et on a une grosse demande, alors il y a peut-être quelque chose à réfléchir, en effet.
Voilà, moi c'est simplement en retour, là j'ai été interpellé vendredi, simplement faire remonter l'idée de sortie du cinéma, la séance du cinéma. Donc là c'était une personne d'un certain âge, et voilà, elle a dit c'était un peu compliqué pour entrer. Voilà. Merci.
Bonne remarque, surtout si on veut baisser en plus la périphérie, en effet, il va falloir peut-être la remonter dans le secteur du centre. Du coup.
Je
Juste pour compléter ce que vient de dire Patrice, je pense que éteindre sitôt en périphérie près du cinéma les éclairages, ça va obliger les gens à prendre leur voiture en fait, parce que moi qui habite en petite périphérie, mais j'irai plus au cinéma si je dois rentrer à pied par exemple, j'irai plus au cinéma à pied. Et je pense qu'il y a d'autres personnes, et en particulier des personnes de mon âge vénérable, et peut-être des plus jeunes aussi, mais en tout cas j'en connais beaucoup qui ne prenaient pas leur voiture pour traverser, pour aller jusqu'au cinéma, qui viendront en voiture. Voilà. C'est une économie peut-être gagnée d'un côté et peut-être perdue de l'autre.
On pourrait, je repense au cinéma. D'abord, je voulais dire une chose. En préambule, je trouve que vous avez beaucoup parlé d'argent, et il n'y a pas que ça. Même si je suis un grand défenseur d'un budget tenu et équilibré, je trouve que cette extension a apporté beaucoup d'autres choses à Dieulfi, et que voilà, c'est bien de parler des sous, mais il n'y a pas que ça, et pour ça, je trouve que c'est quelque chose que j'avais envie de dire. L'autre chose, c'est par rapport au cinéma, l'hiver en particulier. Le cinéma à 21h, c'est quand même très tard, donc on peut peut-être aussi discuter avec l'équipe du cinéma pour voir s'il y a moyen d'adapter à certaines saisons. Voilà. On peut peut-être discuter avec eux.
Oui, en ce qui concerne les remarques qui ont été faites, là, bon, j'ai tendance à dire, personnellement, je suis dans un quartier qui n'est pas éclairé. Quand je me déplace et à pied, j'utilise soit mon téléphone, soit des lampes. Il y a des très bonnes lampes actuellement qui permettent de s'éclairer relativement largement et qui permettent d'éviter éventuellement des endroits où il pourrait y avoir des chutes.
Oui, Patrice ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, dans le public, on n'est pas encore en conseil municipal officiel, et c'est donc ouvert à la discussion. Oui.
Une autre remarque sur l'extinction, donc c'est vrai que on a bien compris, c'est pour arriver à cohabiter avec la biodiversité, etc. On s'est amusé sur les réseaux sociaux à voir des sangliers visiter notre village. Donc ils sont là tôt, donc ils viennent la nuit. Moi je me pose la question, parce qu'il y a quand même la problématique du loup, si justement actuellement les sangliers, voire d'autres gibiers, viennent se réfugier dans l'urbain, parce qu'ils ont compris qu'il y avait une zone de sécurité encore là. Et est-ce qu'un jour le loup ne sera pas dans le village, dans la ville?
Alors, en effet, c'est une bonne question. Je crois que déjà actuellement, de toute manière, on le voit de plus en plus de jour. Il s'adapte, il va dans les poubelles de jour. Il y a plusieurs attaques qui se font de jour. Il était beaucoup plus nocturne. Et, bon, sachant qu'avant, évidemment, avant qu'il soit nocturne, il était diurne. Hein, c'est nous qui l'avons... l'humain l'a rendu nocturne, et actuellement il se réadapte à la vie diurne. Donc en effet, est-ce que c'est possible que ça a un impact assez difficile de le savoir, de répondre maintenant.
C'est des
réflexions. Tout à fait. On pourrait peut-être en interroger des villes qui pratiquent l'extinction depuis plus longtemps que nous, et qui sont dans des zones à loup, pour savoir s'ils ont un retour là-dessus.
Non, mais c'est comme on est enregistré, on vous entend pas du tout sur le YouTube.
Oui, juste vous posez la question pour l'éclairage devant le collège. Il y a beaucoup de lampes, il y a les lampes de la ville, il y a toutes ces lampes qui ont été rajoutées.
Tout à fait, on a fait le constat aussi qu'il y a, une surabondance d'éclairage alors que l'activité baisse énormément, on va dire 18h, 19h, peut-être 20h si, ou 21h si un conseil de classe, mais rarement plus tard. Voilà, il faut voir si ça vaut le coup de mettre une horloge à double canot pour pouvoir scinder peut-être et faire une différenciation. Ou alors, est-ce qu'il y a moyen d'enlever une lampe sur deux, également un luminaire sur deux? On s'est un peu posé la question, on n'a pas réussi à trancher pour l'instant. Mais quelle serait votre idée pour vous?
Au moins, supprimer un luminaire sur deux.
Merci pour cette suggestion, en tout cas. Y aurait-il d'autres questions ou remarques
Juste une précision, Laurence, quand tu disais qu'on peut modifier éventuellement pour la Saint-Sylvestre ou autre, est-ce que ça fait partie du travail que feraient qui, les agents? Parce que tu parles des 100 euros, on ne va pas sortir 100 euros pour ça.
Justement, si nous investissons dans les horloges, ce sera Ludovic qui se charge actuellement du lien avec le SDED, qui pourra faire depuis son ordinateur, pour le centre-bourg, pour l'hypercentre, ses réglages. Et donc, modifier, en effet, les horaires. Donc ça coûtera, on va dire, 5 minutes ou 10 minutes de coût agent uniquement.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le groupe de travail, il est ouvert et que même une fois, pour une proposition ou quoi, c'est bienvenu. Voilà.
Vous avez une feuille à l'entrée et si vous avez envie d'y participer, vous pouvez inscrire vos coordonnées.
Une précision, si on ne donne pas ses coordonnées, où est-ce qu'on voit les dates des groupes de travail?
Alors non, ça c'est bien d'avoir les coordonnées, sinon on peut, parce que c'est vrai que parfois il y a des réunions qui se décident un petit peu au dernier moment et on n'a pas tout le temps de les mettre sur le site internet, même si on essaye. Et sinon, voilà, ça peut être, oui, mais on a besoin de la signature pour que je puisse leur envoyer un message. C'est là. Ben oui, mais...
Je voulais juste poser une question où je suis arrivée trop tard, mais je ne crois pas qu'on ait été que je vous connaisse, vous qui êtes juste à gauche de Laurence. Et je me demandais qui vous étiez.
Oui, j'aurais pu me présenter. Voilà, je fais partie du groupe de travail en tant que citoyenne. Je suis Nathalie Ardelet. Ah,
Nathalie Ardelet, oui, d'accord.
Voilà, comme on le disait, il y avait à peu près entre 6 et 8 personnes suivant les réunions à ce groupe de travail, dont voilà la moitié d'élus, la moitié de citoyens.
Est-ce que l'idée d'éteindre à 22h, alors avec la remarque sur le cinéma, avec la remarque sur certains quartiers, est-ce que ça vous semble imaginable ou est-ce que c'est vraiment exagéré? Est-ce que, voilà, sur certaines saisons, est-ce que ça vous choque?
Ça me choque. Mais, je pense que c'est quand même très tôt. Sur l'entrée de 223 heures et poussière, sur la place de Bretagne, il y avait déjà
plus de Alors ça, c'est intéressant de faire remonter...
Donc... Voilà, et en fait, si vous voulez, je peux comprendre que vous cherchiez à faire ces cognés. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais quand même, 22 heures, c'est très très tôt. Alors, l'hiver peut-être, mais à partir de maintenant, les gens quand même vont et viennent, sortent. Et puis le cinéma, là, je rebondis, moi, j'ai entendu beaucoup de personnes se plaindre et dire ben, « on n'ira plus au cinéma ». Voilà, maintenant, ils ne sont pas là pour le dire, hein, je vous le concède. Voilà, je pense que c'est très tôt, 22 heures, toute l'année, c'est très tôt. Voilà, mais
C'est mon avis. Alors, pour répondre aux différentes interpellations, le place de l'hôpital, c'est pas normal parce qu'en principe, ça fait partie du centre et actuellement, c'est en principe minuit 30. Ça fait partie minuit 30, 5h30. On a privilégié, comme vous le savez, c'était 6h du matin avant la fin de l'extinction. Là, on a anticipé à 5h30 pour permettre justement à ceux qui vont dans le centre-bourg à pied jusqu'à l'hôpital. Je suis un petit peu étonnée. Là, c'est un dysfonctionnement. Donc, à vérifier et à nous faire remonter, absolument, parce que ça, c'est
non, pas... mais si c'est un dysfonctionnement, c'est pas grave non plus.
Oui, hein, non, mais il faut nous le faire remonter parce que sinon, on change rien. Voilà, après, juste pour le cinéma, on a noté et on en prendra compte. Moi, j'ai un témoignage à vous livrer quand on était à la Croix des Raymonds. En l'occurrence, une personne que nous connaissons tous ici, Gisèle. Me disait qu'elle était super contente de cette extinction parce que avant, dans ce quartier, il y a un petit banc sympathique avec, où il y avait souvent des jeunes, en l'occurrence, qui s'asseyaient, qui buvaient un petit coup, qui faisaient la fête, qui s'engueulaient, qui rigolaient, et ça, une bonne partie de la nuit. Et depuis maintenant, elle a récupéré de la tranquillité et elle peut enfin dormir. Et c'est vrai que les zones, en tout cas résidentielles, sont souvent... Enfin, moi, j'ai beaucoup de retours sur l'appréciation à la fois du ciel nocturne retrouvé et de ce silence. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons expérimenté aussi l'extinction de l'horloge de la tour, que j'appelle du beffroi, mais qu'apparemment ne s'appelle pas beffroi. Donc, parce qu'on a des demandes aussi pour avoir ce silence. Donc voilà, je pense que c'est un tout, mais après, en effet, c'est ouvert, cette discussion, c'est au choix sur quoi on pourra prélever aussi les 10 000 euros qu'on aura en plus, enfin les 20 à 25 000 euros qu'on aura à payer pour cette année, si c'est sur la culture, sur quels impôts on va pouvoir faire une petite augmentation pour rembourser ces 25 000 euros qu'on aura payé en plus.
Moi j'ai une question. On parle de l'extinction du luminaire, mais on ne sait pas à l'heure qui s'allume. Et selon la saison, c'est pas la même heure.
Alors en effet, c'est une bonne remarque. En fait, ça c'est
Est-ce que c'est juste un détecteur qui fonctionne comme ça ou c'est quelque chose qu'il faut programmer aussi?
Tout à fait. C'est une bonne question technique un petit peu. Alors actuellement, on a des horloges qui sont basées sur un éphéméride donc national, on va dire, et du coup, c'est pas un détecteur tout à fait, enfin, c'est plutôt des horaires qui sont intégrés, on va dire, dans le programme de l'horloge. Dans les nouvelles horloges qu'on aurait, ça serait plus justement par le réseau et des instructions données par rapport au lever du jour, et donc c'est en fonction de la lumière. Et du coup, c'est par exemple, il y a une programmation qui dit ça s'allume 10 minutes avant l'extinction ou des choses comme ça. Enfin, donc c'est pas nous qui programmons. Bon.
D'accord. Merci.
Moi, du coup, je vais donner mon sentiment. 22h, je trouve que c'est un petit peu tôt, effectivement. Par contre, je suis un petit peu inquiète quand je vois qu'on va éteindre de 19h30 à 6h30 du matin. Sur les périphéries isolées.
Oui, alors je ne sais pas si...
19h30
Si tu as vu, c'est la zone de Graveyron, donc où il n'y a aucune habitation. C'est que des commerces et des entreprises, pardon, oui. Donc là, il n'y a aucune... je ne vois pas l'intérêt qu'on allume après, mais tu pourras me dire ton avis aussi. Après, il y a Grand Moulin, en effet, il y a 3 luminaires pour 2 maisons. Bon. Et il y a pourquoi on a parlé de zone isolée, c'est parce qu'en fait, dans ce que nous explique le SDED, il faut essayer de ne pas créer, enfin, quand il y a des éclairages, puis ça passe à l'ombre, à la pénombre, et notre pupille n'a pas le temps de faire les réglages. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre, par exemple, d'enlever un luminaire sur 2, comme ça nous a été proposé plusieurs fois. Redirement, vous enlevez un luminaire sur 2. Bon, ça, malheureusement, c'est une mauvaise bonne solution parce que la pupille du piéton, passe toujours, fait le yo-yo entre je m'ouvre, je me ferme, je m'ouvre. Donc, Et cette zone isolée, voilà, c'est pour énormément de candélabres pour deux maisons. Donc,
c'est la pupille du conducteur de voiture. Hein. Bah, le piéton, il marche pas si vite qu'une voiture. Et donc, c'est pour la pupille, c'est des réglementations pour les routes. Donc, il faut qu'il y ait un luminaire tous les 40 mètres, il ne faut pas qu'il y ait un trou noir, parce que quand les gens ils roulent, même s'ils ne roulent pas très vite, même à 50-60 à l'heure, et ben, voilà. Donc, on ne peut pas, sur une route, enlever un luminaire sur deux. Par contre, dans un lotissement, ça peut être différent, un parking, ça peut être différent, parce qu'il n'y a pas à rouler à 60 à l'heure. Donc, c'est voilà.
Oui, bon, j'entends, il n'y a pas de souci, mais 19h30, ça me semble excessivement tôt. Après, il y a eu un dysfonctionnement sur la Croix des Raymonds, par contre, parce que pour moi, la Croix des Raymonds s'est allumée beaucoup plus tard que 23h.
Tout à fait, il y a un dysfonctionnement, ça fait partie. On a remonté ça, ça s'allume très tard, ça se met en fonctionnement une heure. Il y a une heure de décalage et ça fait partie des fameuses horloges, enfin voilà, des dysfonctionnements parce qu'elles sont obsolètes et que voilà, de plus en plus il y a des problèmes sur les horloges. Donc en effet, on a fait remonter, mais c'est pas encore réglé, mais ça va l'être.
Okay. Après, moi je salue l'initiative de passer de rallumer à 5h30 au lieu de 6h. Parce que je trouvais que c'était vraiment très très bien. Voilà, c'est tout pour moi.
Je pense que ça démontre le souci du groupe de travail de vraiment coller à la réalité des uns et des autres le plus possible, parce qu'on ne peut pas non plus faire pour chacun, mais c'est bien d'arriver à être à l'écoute de tout le monde pour essayer de trouver les bons équilibres entre le trop et le trop peu. Voilà, écoutez, je sais pas, je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous souhaiter de continuer à travailler dans ce sens.
Merci pour votre écoute et pour vos interventions aussi.
Et merci au groupe et Nathalie d'être venue nous présenter vos travaux. Bien, nous allons commencer officiellement notre conseil municipal. Donc je vais faire l'appel. Monsieur Patrice Benoît, Magali Buisson, Nadia Nelson, Christian Bussat, présent, Alain Chauville, Vincent Dumas, Valérie Debarbieu, Bernard Delpal est absent, il a donné la procuration à Christophe Mancini, Marc Ebrard,
présent,
Laurence Girard, Jacques Glaise, Vanessa Huguenin a donné son pouvoir à Magali Buisson, Sylvain Jean, Marie-Madeleine Leclerc, procuration à Nicole Marcel, Annie Liagre, Christophe Mancini, Nicole Marcel, Marion Martin, Geneviève Morenas, procuration à Christian Bussat, Nathalie Poulin, Camille Perrin, Frédéric Sten et Arnaud Thévenot. Merci à tous. Je demanderai d'abord, j'accueille Madame Virginie Fraisse qui arrive pile poil au bon moment. Bonjour. Donc, qui est notre conseillère aux décideurs locaux, c'est comme ça votre titre. Donc, qui remplace à elle seule tout le service du trésor public de Diolfi. Depuis le départ du trésor public de Diolfi à Nyons. Virginie Fraisse accompagne les communes et les syndicats de communes pour tout ce qui est finances communales. Voilà. Et donc elle vient nous accompagner pour la présentation du compte administratif. Oui, j'en étais un secrétaire ou une secrétaire. Une main se lève. Vincent ? Super, merci. J'ai une petite demande à vous faire. Je vous demande d'ajouter à l'ordre du jour une délibération qui n'a pas été mise dans l'ordre du jour Nous avons voté au dernier conseil municipal le renforcement du réseau basse tension pour alimenter la nouvelle installation du SIEA, du bassin d'orage. Nous n'avions pas le financement de l'opération et donc ça concerne le financement de cette opération. Et donc on parlera de ça en fin de conseil municipal. J'avais un mot à dire au sujet de Anne Beaumanoir qui vient de nous quitter. Voilà, je voulais dire un mot parce que c'est quelqu'un qui a été présente à Guelfi depuis longtemps, quelqu'un qui nous a prouvé par son engagement depuis toujours, hein, parce qu'elle s'est engagée dans la résistance à 18 ans, et jusqu'à, je crois qu'elle est décédée à l'âge de 96 ans. Donc voilà, elle a été très présente pour notre commune, notre communauté. Elle a accompagné la toute jeune Algérie en étant conseillère spéciale du ministre de la Santé. Elle a été appelée par Ben Bella. En parallèle, elle a suivi une carrière de médecin spécialiste en physiologie. Et puis en 2020, elle nous a soutenus elle a soutenu la liste Diolfi Ensemble en étant présidente de son comité de soutien. Et donc, voilà, elle a été quand même très, très présente auprès de nous. Je me souviens d'un jour où c'était au mois de mai, fin mai 2020, et c'était le moment où George Floyd aux États-Unis a été assassiné par des gendarmes, par des policiers. Et on avait décidé de faire quelque chose ensemble, et j'ai donc été la voir chez elle, auprès de Laval, à l'abri. J'ai été quand même estomaqué de cette petite dame de rien du tout qui m'a dit « Mais il faut qu'on aille place Châteaurat et on va se mettre à genoux, on coupe la route et on lève le poing pour George Floyd. C'est une honte et on ne peut pas rester comme ça les bras croisés. » Alors on a discuté un peu longuement. Moi j'étais à quelques jours du deuxième tour, j'étais pas forcément très emballé à aller faire ça au milieu de la route là-bas. Mais voilà, en tout cas, j'en garde le souvenir de quelqu'un. Finalement, on a fait un communiqué de presse qui était moins... Elle était un peu déçue, mais où on a affirmé ensemble notre soutien à ce gars. Oui, une force intérieure, une force d'engagement. Je vous encourage à lire le livre qui a été écrit sur elle, Annette, une épopée. Et je le présente au nom de... En mon nom, en votre nom à tous, et en nom de Diolfi, d'Etiolfitois, mes condoléances à son fils et à sa famille. Voilà, merci. Nous avons à approuver le procès-verbal de la réunion du 24 janvier. Est-ce que vous avez des remarques sur ce PV ? Non, pas de remarques. Est-ce que quelqu'un est contre ? Quelqu'un s'abstient ?
Je n'étais pas là.
Merci. Donc c'est adopté à l'unanimité des présents. Merci. Nous devons désigner un président de séance pour le vote des comptes administratifs. Puisque vous savez que les comptes administratifs, ce sont donc les comptes de l'année passée. Qu'on va vous exposer. Et au moment du vote, le maire, traditionnellement, réglementairement, doit s'absenter. Et donc, je propose que Magali exerce son pouvoir de faire voter au moment de mon absence. Nous allons donc vous présenter ce compte administratif. J'ai fait voter. Non, je n'ai pas fait voter. Qui est-ce qui est contre que Magali me remplace ? Avantageusement. Qui est-ce qui s'abstient ? Merci. Voilà, donc je vais vous présenter les chiffres de 2021. On va essayer de les dérouler un peu rapidement, mais pas tout en même temps, parce que sinon ça fait beaucoup. Donc on va commencer par les dépenses de fonctionnement et par les charges à caractère général. Ce que je vois, c'est ce qu'il y a derrière. Oui. Super. Donc les charges à caractère général, on avait prévu 912 300 et on a dépensé 774 803. On a mis quelques chiffres pour qui sont un peu représentatifs. Donc l'eau et l'assainissement 47 511, sachant qu'en 2020 c'était 35 712. Il y a eu une grosse fuite à la piscine qu'on a mis un peu de temps à détecter et à réparer. Électricité, combustible et carburant 189 441 au lieu de 164 000 en 2020. Voilà, ça a été le cas pour tous nos porte-monnaies de chacun. Ça a été le cas aussi pour le porte-monnaie de la commune, une augmentation importante des combustibles et des carburants, et un petit peu de l'électricité. L'entretien et maintenance, alors qu'on a éteint l'éclairage public, quand même une grande partie de la nuit. L'entretien et maintenance des équipements et bâtiments publics 166 962 au lieu de 109 000 en 2020. En fait, il y a eu autour de 60 000 de dépenses pour les travaux de l'église. Donc ça explique cette augmentation importante. Ce chiffre est équilibré avec une recette puisque l'assurance nous paye une grande partie de ces travaux. Mais enfin, ça fait augmenter les dépenses. Fêtes et cérémonies, 33 116 au lieu de 28 360. Voilà, on a augmenté un petit peu. En 2020, c'était le Covid plein à fond. Donc voilà, ça a pu augmenter un petit peu. Ensuite, les charges de personnel. On avait prévu 1 630 335 et on a dépensé 1 614 314. Donc tout à fait dans ce qui était imaginé. L'atténuation de produits. Donc ça, c'est, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est la participation de la commune à la communauté de communes, donc 28 028, on avait prévu 30 000. Les dépenses imprévues, 41 950, on avait prévu, et on n'a pas eu de dépenses imprévues. Les autres charges de gestion courante, 367 124. Donc il y a eu, voilà, quelques chiffres pour le rappel, 20 000. Pour le CCAS, sachant qu'en 2020 c'était 15 000, hein, on avait décidé d'augmenter sensiblement la subvention CCAS. Les subventions aux associations en 2020 c'était 56 035, c'était là aussi une année morne année, et donc ça a augmenté sensiblement à 81 755. La contribution à l'école privée a été de 63 231 alors qu'elle avait été de 74 000 l'année d'avant. En fait, ça s'explique parce qu'il y a eu un peu moins d'élèves à Sainte-Marie et il y a eu un peu plus d'élèves au Jonchée. Et donc, comme la plupart des charges sont fixes, enfin sont, et en fait, on donne à Sainte-Marie un temps par enfant. Donc, comme les charges de l'école communale sont fixes et que le nombre d'enfants a un peu augmenté, par enfant, ça a fait un peu moins. Et comme il y avait moins d'enfants à Sainte-Marie, il y a eu un peu moins aussi de l'autre côté. Voilà. Il y a eu aussi moins d'interventions que l'année d'avant à cause du Covid. Donc là aussi, par exemple, pour l'école élémentaire, la dépense avait été de 773 euros par enfant en 2020 et ça a été de 662 en 2021. Voilà. Charges financières, donc on avait prévu 79 400 et on a dépensé 78 145. Donc ça, ce sont les intérêts de la dette. Charges exceptionnelles, 10 598. On avait prévu 13 760. Donc tout ça nous donne des dépenses de fonctionnement, le total 2 892 793 euros. Il y a une petite étoile qui concerne le virement à la section d'investissement. Donc on a prévu dans le budget primitif 987 012, donc c'est le chiffre qui permet d'équilibrer le budget entre les dépenses et les recettes. Mais ce n'est pas de l'argent, il n'y a pas d'écriture comptable, c'est pour ça qu'il y a une petite étoile qui qui est en place et qui fait que les dépenses de fonctionnement par rapport au prévu sont beaucoup moins importantes. On parle des recettes, donc l'atténuation de charges pour 68 015 euros au lieu de 50 000, ça ce sont des aides pour notamment des emplois aidés, et voilà, des aides qui font baisser les charges, ça vient en recettes. Produits des services, domaine public, 131 051, avec en particulier 2 780 de coupe de bois, 20 659 de piscine et 41 401 de cantine. La piscine, ça a été assez peu fréquenté. Il y a une baisse de fréquentation importante. Voilà, due aux conditions. Hein. Je pense que l'année prochaine, on va pouvoir se baigner beaucoup plus souvent, tous ensemble. Impôts et taxes, 2 207 620. Au lieu de 2 105 172, au moment où on fait le budget, on n'a jamais tout à fait tous les chiffres, donc on met toujours un chiffre un peu prudent, et là, il y a eu un petit peu plus. Dotation, subvention, participation, 910 934. On avait prévu 889 243. On vous a fait un petit schéma pour expliquer l'évolution de la dotation forfaitaire versée par l'État, qui est donc de l'ordre de 700 000 euros. Et qui, voilà, après une période de baisse continue jusqu'en 2017, a remonté un petit peu. C'est quand même une partie importante de ce qui nous permet de vivre dans nos communes. Voilà, ça remonte, c'est pas énorme, mais enfin, c'est déjà ça, madame la représentante de l'État. Voilà, je continue sur les autres produits de gestion courante. Donc toujours en recette de fonctionnement, on avait prévu 52 800, il y a eu 50 770, en particulier les revenus des immeubles, notamment la poste, mais on a quelques loyers qui rentrent, 38 008. Produits financiers, 4 euros, merci la banque. Produits exceptionnels, 61 508, donc là on retrouve le chiffre approximatif dont on a parlé tout à l'heure en dépenses, c'est en particulier les remboursements de l'assurance, 52 601, dont l'église 35 781, et le reste concerne des accidents, voilà, des remboursements d'assurance suite à des accidents. Il y a eu la pile du pont du Combal, et puis il y a eu le panneau sur la place de la Mémanière. Et le mur du cimetière, tout à fait. Donc voilà, pour avoir une idée, l'année dernière, on a vu 9 430 euros par les assurances. Voilà, donc on arrive au total des recettes de fonctionnement de 3 443 954, avec un excédent reporté de 640 707 pour équilibrer le budget, et là aussi, il n'y a pas d'écriture en face, on aurait pu mettre une autre série. Le résultat de l'exercice, c'est donc de 3 443 954,61 de recettes, moins 2 892 792,67 de dépenses, ça donne donc 551 161,94 €, plus l'excédent reporté de 2021, 640 707. Nous avons disponible pour l'affectation, dont on va parler après, 1 191 869. On vous a fait un petit graphique, Isabelle vous a fait un petit graphique pour voilà, montrer l'évolution de cet excellent excédent. On va passer aux investissements. Puisque vous savez que le budget et le compte administratif a deux parties, la partie fonctionnement et la partie investissement. Donc en investissement, il y a une colonne, la colonne de droite concerne des restes à réaliser. Ce sont des travaux qui sont démarrés mais qui ne sont pas payés encore. Donc c'est des choses qui sont en cours, hein, puisqu'on est obligé de faire un compte administratif au 31 décembre, mais il y a des choses qui sont en cours. Donc c'est l'explication de la dernière colonne. Donc il y a eu des dépenses imprévues, il n'y en a pas eu, des emprunts et dettes, donc ça c'est le capital qu'on rembourse, tout à l'heure c'était les intérêts, là c'est le capital, 392 317. Et ensuite, des immobilisations incorporelles. Donc, c'est des choses incorporelles. Je pense que c'est des logiciels en particulier. C'est souvent des logiciels. Le croquis suivant montre l'évolution de la dette. Avec les grandes barres, c'est le capital. Et les petites barres, il y a des couleurs, non ? Grande barre bleue, c'est le capital. Donc, vous voyez que ça augmente jusqu'en 2024. Et ensuite, ça baisse en 2025-2026, puis 2027-2028, si on ne réemprunte pas. On peut le souhaiter, mais on verra. Et la partie verte, qui est donc le remboursement des intérêts, qui diminue chaque année un petit peu. Le croquis suivant nous montre, alors c'est aussi, on parle aussi des emprunts, mais je trouve que c'est quelque chose de plus parlant, c'est... le capital qui nous reste à rembourser à la fin de chaque année. Donc en 2019, on avait donc 3 250 000 à peu près. En 2020, on avait dû emprunter, vous vous souvenez qu'on avait emprunté, je vais en reparler après, mais voilà, donc on était monté à 3 800 000 à peu près. Et puis à partir de 2021-2022, ben ça baisse puisque chaque année on rembourse une partie du capital. Cet emprunt, je vous rappelle, parce que j'ai eu l'impression de le dire beaucoup, et en fait, quand j'en parle à des gens que je croise, ils n'ont pas du tout entendu, donc je le répète. On a dû emprunter en décembre 2020, hein, c'est ça, 900 000 euros, qui correspondaient à de la TVA qu'on devait toucher, mais qu'on devait toucher l'année d'après, donc qui avait été budgétisé alors que... ça n'allait pas rentrer, donc on avait un trou, ça représentait 235 000 euros. Une ligne de crédit qu'on devait rembourser début 2021 de 500 000 euros, dont on n'avait pas le moindre centime. Une ligne de crédit, c'est un emprunt, mais c'est un emprunt qui ne passe pas dans le budget. Donc c'est une facilité qui est donnée aux responsables de la mairie, hein, d'emprunter sans vraiment de contrôle, voilà. C'est pour des questions de trésorerie. Hein.
Excusez-moi, j'ai pas enroué, donc j'espère que je serai quand même audible. La ligne de trésorerie, contrairement à un emprunt qui passe par conseil municipal, c'est une souplesse pour le maire de débloquer des fonds en attendant des fonds qui vont arriver. Donc, par exemple, des remboursements de TVA ou une dotation que l'on attend, c'est pour éviter de manquer de trésorerie et que la trésorerie ne puisse rien payer, ni le personnel, ni les entreprises. Voilà, on fait rentrer de l'argent parce qu'on sait que la somme va rentrer plus tard, ou par le biais de subventions ou de FCTVA. Donc c'est sur du court terme.
C'est sur du court terme. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui existait depuis déjà un certain nombre d'années, et qui arrivait à échéance là en février 2020, moi j'avais pas envie de repartir en re-empruntant 500 000 en ligne de trésorerie qui apparaissait pas là-dedans. Enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était plus sain et plus clair d'emprunter de manière transparente, que tout le monde soit au courant, et qu'on reparte sur des bases plus saines. C'est donc ce qui explique que pour 2020, la courbe du capital restendu a augmenté. Et puis il y avait une troisième chose, c'est qu'on avait une facture du SIOA de 165 000 de tête qui était prévue, puisque c'était les travaux qui avaient été faits pour le compte de la commune pour le SIOA rue Gabriel Péri, et qui n'avait pas été inscrite au budget, donc on n'avait pas d'argent pour. Oui, c'était ça. Non, Sorodi avait été budgétisé. Non, c'était vraiment le SIOA qui réclamait son dû.
Tu avais fait l'avance, ouais.
Voilà, compte administratif, donc en dépenses, on arrive donc à un total de... on avait prévu 2 970 179 et on a réalisé que 595 414 avec un reste à réaliser, donc des choses qui nous restent à payer, de 238 921.
Juste pour revenir sur les restes à réaliser, parce qu'aujourd'hui vous votez que le compte administratif et pas le budget, pour faire le lien avec le prochain conseil municipal sur le vote du budget. les restes à réaliser, là on vous présente les montants, et c'est des montants qui seront, vous serez dans l'obligation de reprendre au budget 2022. C'est des restes à réaliser 2021, mais vous n'aurez pas la main, vous serez obligé de remettre ces montants-là en fait sur le budget. C'est pour ça qu'on vous les présente aujourd'hui.
Parfait. Voilà, ensuite donc des opérations d'ordre entre sections, c'est donc des travaux au registre, c'est des travaux qui sont faits par les employés municipaux et qu'il faut qu'on comptabilise en investissement, donc voilà, il y a un jeu d'écriture, et puis un solde d'exécution N-1, donc un déficit qu'on a cumulé année après année, qui était de 716 106. Donc le total des dépenses prévues 2 970 179 et le total des réalisés 595 414 plus les restes réalisés 238 921. En recettes, nous avons en premier donc les dotations fonds divers et réserves, principalement le FCTVA puisque c'est donc 272 061. FCTVA pour 235 013 et taxes d'aménagement pour 37 047. C'était les fameux 235 000 qui avaient été comptabilisés l'année d'avant, injustement, puisqu'on les a touchés en 2021. La suite des recettes, donc affectation du résultat 540 647. Les subventions d'investissement, on avait prévu 1 121 893, mais on a fait. Vous avez vu qu'on a fait moins de travaux que prévu, donc on a touché moins de subventions que prévu. Donc on a touché comme subvention 325 102 et il nous reste à réaliser 299 291. En virement à la section de la section de fonctionnement, donc on avait prévu, vous avez vu tout à l'heure, 987 012, et on se retrouve avec la petite étoile. En opération d'ordre, donc c'est un calcul savant. Qui nous donne des recettes pour 19 732, hein, c'est des amortissements. Ça donne un total général prévu 2 970 179, réalisé 1 157 541, reste à réaliser 299 291. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Ça va, vous avez suivi ? j'ai pas commencé par là, mais j'aurais pu dire un mot là-dessus. L'année dernière, on avait fait le compte administratif et le budget primitif à la même séance du conseil. J'avais trouvé ça extrêmement lourd pour celui qui présente et pour ceux qui écoutent. Donc voilà, cette année, on fait en deux fois. Je pense que c'est plus clair. On termine 2021 et on parlera 2022 ensuite, donc le prochain conseil municipal. Alors, je ne sais pas si on vote ou si vous nous présentez d'abord le compte de gestion. Enfin, vous nous présentez.
Le compte de gestion est très simple à présenter puisque tout ce que vous venez de dire, je le confirme. Donc, je ne vais pas refaire la liste à l'après-verre de tous les chiffres. J'atteste que nous avons bien les chiffres, les mêmes chiffres à la DGFiP et à la commune de Dieulfi.
Je vous laisse voter, c'est ça?
Bonsoir. Je vais voter les dépenses de fonctionnement, les recettes. Je vais voter en plusieurs fois. Oui, je fais 4 fois. Ok. Si tout le monde est d'accord, je préfère voter 4 fois. D'abord les dépenses de fonctionnement, donc je ne les rappelle pas. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc 4 abstentions. Au niveau des recettes de fonctionnement, la même chose. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? On passe à l'investissement, donc les dépenses d'investissement, qui vote pour, qui s'abstient et qui vote contre. Et la même chose pour les recettes d'investissement, qui vote pour. Ouh là là. Qui s'abstient et qui vote contre. Merci à tous.
Si tu permets, oui.
Monsieur le maire, vous pouvez revenir. Il est chez Thérèse.
Pardon. Oui, alors, bonsoir à toutes et tous. Je pense qu'il est important que l'on dise pourquoi on s'abstient.
Bien sûr.
Ben, tout simplement parce qu'il s'agit quand même de compte de compte de résultats, compte administratif de votre budget et non pas d'une autre. Donc il est difficile pour nous forcément d'être pour. Même si on salue le travail, bien sûr, du Trésor public, de l'équipe de Madame, etc. Donc il nous, voilà la raison pour laquelle on s'abstient tout simplement. Et deuxième chose, alors ça n'a rien à voir avec l'abstention, mais on a eu une partie, si vous voulez, on a eu quelques détails de ce compte administratif. Par contre, est-ce qu'il nous serait possible d'avoir ce que l'on vient de lire tous ensemble, les tableaux, les graphiques, etc. Comme l'a dit M. le maire tout à l'heure, on va voter le budget au prochain conseil municipal. C'est déjà bien aussi pour nous qu'on puisse s'imprégner de tous ces chiffres pour le prochain budget. Voilà, donc si on peut les avoir rapidement, qu'on ait le temps de les regarder, ce serait super bien. Merci.
Je vais même me lever pour vous les apporter.
Voilà, donc il faut maintenant qu'on se prononce sur le résultat et l'affectation des résultats. En investissement, nous avons un solde d'exécution, donc une différence entre les recettes et les dépenses de moins 153 977,83. Il nous reste en reste réalisé en dépenses 238 921 et en reste réalisé en recettes 299 291. Ça veut dire quand on additionne ces trois chiffres, il manque pour équilibrer le budget d'investissement 93 607,83. Donc je vous propose d'affecter en priorité le résultat de fonctionnement qui est de 1 191 869,44. En priorité pour l'investissement, donc pour la somme de 93 607,83, ce qui nous laisse pour abonder en fonctionnement pour le budget primitif 2022 pour dans 6 semaines 1 098 261,61 €. Pour mémoire, vous avez vu que vous avez les sommes qui ont été reprises en fonctionnement chaque année depuis 2016. Donc il y a une évolution plutôt favorable puisqu'on a plutôt, on arrive à investir un peu plus. Est-ce que quelqu'un a des questions sur cette affectation de résultats ? Je vous propose donc de voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 1, 2, 3, 4. Et qui est pour ? Je vous remercie. Nous allons passer maintenant au budget de la centrale photovoltaïque. Vous savez qu'on a une centrale photovoltaïque sur la toiture des services techniques et que cela fait l'objet d'un budget particulier. Est-ce que Laurence, tu veux le présenter ou est-ce que tu veux que je... Allez, s'il y a des questions, c'est toi qui réponds. Ça va. Voilà, c'est plus simple parce qu'il y a moins de, hein, il y a moins de lignes. Donc le premier tableau, c'est donc les dépenses et les recettes de fonctionnement. Donc il y a en entretien réparation 36,11 €. On avait prévu 895 €. En autres charges de gestion courante, on a 0,22 €. On avait prévu 1 €. En charge financière, on a donc on a payé en intérêt 2 924,69 €. On avait prévu 2 925, on le savait. Donc le total des dépenses réelles, c'est 2961,02. En dotation aux amortissements, on a 4 219 €, ce qui donne un total général des dépenses de fonctionnement de 7 180,02 €. En recette, nous avons vendu de l'électricité pour 7 954,45 €. Donc c'est le total des recettes réelles. Et nous avons un excédent reporté de 659,53 €, ce qui nous donne un total général des recettes de fonctionnement de 8 972,87 €. Donc un résultat de fonctionnement en excédent de 1 433,96 €. Le tableau suivant nous montre l'évolution des recettes d'électricité de la centrale, qui était relativement stable jusqu'en 2016. Il y a eu un peu des hauts et des bas 2017-2018. Il y a eu une très mauvaise année 2020. Et cette année, ça remonte un peu. En 2020, on était même inquiet parce qu'on s'est demandé s'il n'y avait pas eu un problème de dysfonctionnement, parce que c'était quand même vraiment plus bas que prévu. Et puis finalement, il n'y avait pas. Et donc, ça remonte en 2021. Le soleil doit briller un petit peu plus fort. En investissement, nous avons un emprunt de 5 747,42 €. Donc, un remboursement de capital, pardon. Ce qui donne un total général de dépenses d'investissement de 5 747,42 €. Et un amortissement de 4 219 €. Donc, un excédent sur l'investissement de 3 758,24 €. Est-ce que vous confirmez, Madame Fraisse, par le compte de Dieu ?
Je confirme vos chiffres. Et oui.
Je te rends.
Je fais qu'un vote cette fois-ci.
Ouais.
Je fais qu'un seul vote cette fois-ci, on est là. Ah, on est d'accord. Dépenses recettes, pareil. Bon. On va procéder à deux votes alors. En fonctionnement et en investissement, et je fais la même chose. Alors, on va le faire en quatre fois. Je vais reprendre au cas où il y a des. Donc sur la section de fonctionnement, on va d'abord commencer par les recettes. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Oh ! Qui est pour ? Pour les dépenses, qui est pour ? Donc, pour l'investissement au niveau des recettes, qui est pour ? Merci beaucoup. Et pour les dépenses, qui est pour ? Formidable. Unanimité pour le photovoltaïque. On vous écoute du coup.
Alors, vous l'aurez bien compris, là, c'est quand même quelque chose de complètement différent. On n'est pas sur un budget classique, hein, mais on est sur quelque chose que l'on récupère de quelques années. Et voilà, donc il n'y a pas de décision particulière sur ce photovoltaïque. Voilà. Par contre, voilà.
Peut-être que, voilà, on pourrait dire un mot sur ce qui paraît. Satisfaisant, hein, puisqu'on parlait d'un excédent, mais alors je ne sais pas si je vais bien le traduire, peut-être qu'Isabelle me reprendra, ou Sylvain, si tu veux me compléter, mais ce qu'on a un peu compris lors de la dernière réunion de présentation donc, de ces chiffres, c'est que malheureusement cet excédent réalisé ne suffit pas à rembourser en gros l'emprunt, enfin le remboursement du capital, des annuités en gros. Et malheureusement, d'ici quelques années, il va y avoir un surendettement. Enfin, en gros, vu ce que j'ai compris, on va devoir subventionner la centrale, en gros, qui ne rapportera pas suffisamment par rapport aux annuités. Et sauf s'il y a un miracle de soleil en continu, et encore, c'est très difficile, puisqu'il n'y a qu'une année, je crois, qui permettait d'être dans le remboursement. Oui, 2 années sur 10 ont été satisfaisantes, réellement, par rapport à la. Voilà. Mais peut-être que Virginie ou Isabelle.
Oui, je vais intervenir par rapport à l'analyse de ces, de ce budget et les fameux ratios de M. Capeton vous présentez. Et du coup, je prends la relève. Alors, on est sur le photovoltaïque et je reviendrai peut-être sur le budget principal après. Alors, on va descendre un peu. Voilà. Alors, le photovoltaïque, ce qui est très important pour un budget, c'est de voir la capacité d'autofinancement de ce budget. Le budget annexe du photovoltaïque est autonome par rapport au budget principal. Donc votre budget principal n'a pas vocation à venir aider le photovoltaïque qui doit s'autofinancer. Actuellement, c'est encore jouable parce que vous avez, on va dire, une petite réserve, mais ça s'amoindrit effectivement. Et au fur et à mesure que vous allez taper dans la réserve, eh bien vous aurez des difficultés effectivement pour équilibrer votre budget. Alors, je vous ai mis au tableau l'évolution de cette capacité d'autofinancement pour que vous puissiez comprendre d'où vient effectivement le sujet du photovoltaïque. Alors, la capacité d'autofinancement, on est uniquement dans la section de fonctionnement. C'est la gestion courante du photovoltaïque. Donc, je regarde les produits que l'on arrive à percevoir sur ce budget et les charges en contrepartie que vous avez dans le fonctionnement. Au niveau des produits réels de fonctionnement, on voit qu'on est aux alentours, on va dire, on oscille entre 8 000 et 9 000 euros. Voilà, on a l'impression qu'il y aura des difficultés à avoir plus, parce que vous êtes aussi lié par les tarifs avec EDF. Voilà. Au niveau des charges de fonctionnement, on voit qu'on ne les fait pas exploser. On tourne aussi entre 3 000 et 4 000 euros. Donc on a l'impression que c'est le régime de croisière de ce photovoltaïque. Quand on regarde du coup la CAF brute, c'est-à-dire cette capacité d'autofinancement, les produits moins les charges, vous êtes sur 2021 mieux qu'en 2020 du fait qu'il y ait eu beaucoup plus de production, donc beaucoup plus de produits. Donc on est aux alentours de 4 900, presque 5 000 euros de CAF brute, ce qui est une bonne CAF en soi. Le sujet, c'est la ligne qui suit, le capital de la dette à rembourser. Vous voyez que le capital est plus important que les recettes du photovoltaïque. Ce qui signifie que vous êtes obligé de piquer dans les réserves de ce budget les sommes d'argent cumulées que vous avez pu faire au cours des années pour pouvoir, à minima, solder le capital pour l'année prochaine si je ne compte aucune dépense en plus. Voilà, d'investissement. Si tout va bien, parce que la CAF a pour but, donc c'est ce qu'on dégage du fonctionnement, pour l'investissement. Donc priorité dans l'investissement au remboursement de l'emprunt, et ensuite s'il reste quelque chose, eh bien c'est pour des dépenses d'équipement. Là on part avec déjà un moins, c'est moins 754 euros qu'on doit récupérer du coup dans votre réserve pour rembourser l'emprunt, et donc s'il y a des dépenses d'équipement en face, ben, on va encore piocher probablement. Donc c'est là où arrive la difficulté. Quand vous parliez des trois années sombres, c'est celle que je vous ai mis en rouge. On voit effectivement que sur les cinq dernières années, il n'y a que deux années, 2017 et 2019, où vous avez une CAF nette positive. Et encore, on ne fait pas grand-chose effectivement avec 100 euros. Voilà la difficulté de ce photovoltaïque. C'était dès le départ l'autofinancement. Si je poursuis, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui. Alors là on le voit sur le diagramme, c'est plus parlant, hein, un diagramme qu'on est du coup en négatif au niveau de la CAF. Ce qu'on appelle le ratio de rigidité, c'est un ratio aussi que l'on donne, c'est les dépenses incompressibles en fonctionnement. Vous êtes sur quelque chose, sur quelque chose qui est tout à fait correct, puisque le seul critique, c'est quand on dépasse 55%, on estime qu'on n'a plus de marge de manœuvre en fonctionnement. Donc en fonctionnement, on y arrive. Et au niveau du ratio d'endettement, là vous avez l'évolution de votre ratio d'endettement. Donc il diminue, mais il est quand même très très élevé, puisque le niveau de ratio en principe seul critique, c'est 1,43. Alors là on est sur un budget annexe très particulier, donc c'est un ratio sur lequel je ne veux pas vous alarmer, mais il est évident que l'endettement au regard de l'activité est bien trop important sur ce budget.
Je veux bien vous poser une question.
Oui.
Sur combien d'années l'emprunt est pris? Est-ce que quand est-ce qu'on aura fini de payer et est-ce qu'on ne peut pas rallonger du coup la durée de remboursement?
Bonne question. On a essayé d'étudier avec
2031.
Avec Isabelle
les solutions et d'abord le pourquoi on était dans cette situation et ensuite les solutions éventuelles. Alors il y a trois choses. Au niveau de l'emprunt a été fait sur 20 ans alors que l'amortissement a été calculé sur 25 ans. Donc il y a un décalage entre le capital qu'on rembourse et l'amortissement qui est en face. La deuxième chose, c'est qu'il a été fait sur un montant qui prenait une partie de la TVA en compte, alors que la TVA est remboursée l'année même des travaux, donc je ne sais pas très bien pourquoi c'était fait comme ça. Et du coup, on rembourse un emprunt trop important par rapport à ce qui a été réalisé comme travaux. Et la troisième chose, c'est que le taux est 3,68%, de l'ordre de 4%, un petit 4%. Voilà, ce qui est un taux. Voilà, à l'époque, c'était le taux normal, hein, mais aujourd'hui, on pourrait peut-être discuter, voir. Donc, l'idée, c'était d'aller parler avec le Crédit Agricole, puisque c'est le Crédit Agricole qui nous a prêté pour ça, pour voir si on pouvait rallonger, éventuellement baisser un peu le taux, voilà, voir comment on peut faire.
Il signifie concrètement que. Je vais prendre le micro, mais c'est quelque chose que moi je ne comprends pas. C'est-à-dire que pour réaliser ces capteurs, cette centrale photovoltaïque, il a été emprunté plus que le hors-taxe, alors que la TVA a récupéré. Ouais, je trouve ça extrêmement étonnant.
Je ne sais pas, nous on avait évoqué pendant la réunion une quatrième solution, mais peut-être que vous avez déjà une réponse que nous, on n'a pas eue. C'était le fait que le tarif de rachat de l'électricité n'était pas en hausse par EDF, donc ça allait plutôt diminuer, et on se demandait si on pouvait casser le contrat pour faire de l'autoconsommation, donc une vente peut-être à un prix supérieur à la mairie, ce qui permettrait d'avoir un déficit moindre, puisque de toute manière, cette électricité, on va l'acheter beaucoup plus cher de plus en plus, donc si on pouvait le racheter à cette centrale, voilà, mais j'ai pas eu les éléments de réponse.
Voilà, donc c'est un problème. Aujourd'hui, ça passe encore, mais enfin, c'est un problème qui est récurrent et qui, un jour, on va être obligé de faire quelque chose.
D'après
c'est pas simple, parce qu'on n'a pas le droit de subventionner. Hein. On ne peut pas dire, ah ben, il y a un trou, on met un peu d'argent. Hein.
Non, d'après les calculs qu'on a pu faire en réunion, justement, on sait qu'il y en a encore pour 2 ans. Enfin, on peut tenir encore 2 ans. Mais à ce rythme-là, si on continue avec ces chiffres, ça y est, c'est cuit, quoi. Voilà. Et ce que tu viens de dire, c'est juste, si on pouvait casser ce contrat avec EDF, et puis justement se servir de cette électricité, en interne, ce serait vraiment super, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, il est racheté 31,355, quoi, rien du tout, hein, par rapport à ce qu'on nous facture. Quoi. Voilà.
Bien, j'ai encore un vote à faire, et puis ensuite je vous redonne la parole sur le budget général. Hein, sur le, donc le vote concerne le. Où est-ce que je suis là? L'affectation du résultat du budget du compte administratif du photovoltaïque. Donc je propose d'affecter la totalité du résultat de fonctionnement en fonctionnement, et donc 1 433,96 €, et la totalité du résultat d'investissement en investissement, c'est-à-dire 3 758,24 €. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Je vous redonne la parole pour le...
Donc, vu qu'on parlait des ratios, je reviens sur le budget principal au niveau des ratios. Donc, même chose, évolution de la capacité d'autofinancement, comme pour le budget annexe, la CAF, ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement, est quelque chose que je suis de près aussi au niveau des budgets. Donc, de la même manière, produits et charges de fonctionnement, l'évolution sur les 5 dernières années. On voit qu'on a des produits qui sont à la hausse, et notamment entre 2020 et 2021, vous avez plus 109 000 euros qui vient essentiellement des ressources fiscales. Voilà. On refera éventuellement, si vous souhaitez, un point sur les conséquences de la taxe, la suppression de la taxe d'habitation lors du budget, hein, la prochaine fois, mais voilà, vous n'êtes pas forcément perdant en ressources fiscales. Au niveau des charges de fonctionnement, on a une hausse aussi de plus 126 000. Et on voit donc du coup que les charges ont évolué bien plus de manière plus importante que quand même les ressources globales. Ce qui fait que votre CAF brut de 573 000 en 2020 est passé à 556 000 en 2021. Donc on a une petite perte de 16 000 euros. Ce qui n'est pas problématique en soi. On a encore là une CAF brute qui tient la route, hein, qui est de qualité. Au niveau du capital de la dette à rembourser, on a effectivement eu un nouvel emprunt en 2019 et en 2020, ce qui fait qu'on a un capital à rembourser qui est aux alentours de, voilà, qui était de, aux alentours de 357 000 en 2020, qui est un peu plus élevé en 2021 du coup, parce qu'il y a le nouvel emprunt, le capital du nouvel emprunt qui s'est rajouté. Donc on est à plus 34 000 euros de capital à rembourser. Donc moins de CAF et un peu plus d'emprunt fait que votre CAF net, c'est-à-dire votre capacité d'autofinancement pour les dépenses d'équipement, est un peu réduite. Elle passe de 215 000 à 164 000 en 2021. Au niveau du ratio de rigidité. Donc, ratio de rigidité, pour rappel, je suis passée un peu vite tout à l'heure pour le photovoltaïque parce qu'il n'était pas forcément pertinent pour le photovoltaïque. Il l'est un peu plus pour le budget principal. C'est le poids de vos dépenses incompressibles en fonctionnement. C'est-à-dire dans votre gestion courante, les dépenses sur lesquelles bah, on ne va pas pouvoir venir faire des économies comme ça du jour au lendemain. Donc, on a trois postes. Le personnel, bien évidemment. Contrairement à des entreprises privées, vous ne pouvez pas licencier du jour au lendemain, donc vous êtes tenu par le poids du personnel. Vous avez ce qu'on appelle le contingent obligatoire. Le contingent obligatoire, ce sont toutes ces subventions et participations que la commune doit verser parce qu'il y a des conventions ou des obligations réglementaires. Et je pense par exemple, vous parliez des écoles tout à l'heure, écoles privées. Voilà, vous êtes obligé de subventionner le SDED, ce que vous êtes engagé, ou le SDIS. Donc voilà, on a toutes ces subventions hein, qui ont tendance à s'accroître, surtout pour 2022 parce qu'on a reçu les nouvelles tarifications qui sont au niveau départemental, hein, revues par le SDED ou le SDIS. Et les charges financières. Les charges financières, c'est les intérêts de la dette. Donc, charges de personnel, on a eu une petite augmentation entre 2020 et 2021, 50 000 euros. Contingent obligatoire, c'est subventions et participations obligatoires, moins 10 000, et les charges financières, moins 13 000. J'attire votre attention sur le fait que malgré qu'il y ait eu cet emprunt en 2019 et 2020, effectivement, on a des baisses de charges financières. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est parce que les derniers emprunts qui ont été contractés ont été contractés à des taux quand même relativement bien négociés, qui fait que ce n'est pas venu plomber le poste charges financières. Le capital, c'est normal, on l'emprunte, il faut le rembourser. Mais en tout cas, sur les charges financières, c'est pas ce qui est venu alourdir le ratio de rigidité en 2021. Au contraire, ce ratio, malgré l'augmentation du personnel, a diminué, 52,69% contre 53,62% l'an passé. Le seuil critique, c'est dès qu'on atteint 55% et qu'on le dépasse. On considère que vous n'avez plus de marge de manœuvre en fonctionnement. Voilà. Là, on est encore dans les clous. C'est un autre format. Et au niveau de l'endettement, donc je reviens sur l'endettement, on voit que l'encours de la dette donc, augmente entre 2018 et 2019 parce qu'il y a un nouvel emprunt, entre 2019 et 2020 parce qu'il y a un nouvel emprunt. Entre 2020 et 2021, on commence à plus emprunter, à re-rembourser. Donc, du coup, on a une baisse de l'encours de la dette, ce que vous avez montré tout à l'heure, monsieur le maire, avec vos graphiques. Et les recettes de fonctionnement, parce que le ratio d'endettement regarde, en fait, le nombre d'années de produits de fonctionnement dont vous auriez besoin pour venir rembourser le stock de votre dette. Donc, on fait l'encours de la dette sur les recettes. et les recettes ayant augmenté un peu cette année aussi par rapport à 2020, eh bien vous avez du coup un ratio qui s'améliore au niveau de l'endettement, qui passe de 1,20 à 1,04, sachant que le seuil critique est de 1,43. Donc on est aussi correct au niveau de l'endettement. Le niveau de l'endettement, alors ça c'est pareil, c'est la présentation graphique. Et ce que je vous ai mis aussi, c'est la capacité de désendettement. La capacité de désendettement en année CAF. C'est pour ça que la CAF brute, je regarde précisément l'évolution, parce que ça nous permet de voir la solvabilité en fait de la collectivité quand on prend l'encours de la dette et qu'on le rapporte à la CAF brute. Donc on est à 6,24 en 2021, c'est un petit peu mieux effectivement que 2020. On considère que jusqu'à 6 années, on est sur une dette qui est maîtrisée. Entre 6 et 9 ans, il faut commencer à faire attention. Donc là, on est à la limite des 6 ans, ça reste correct. Voilà ce que je pouvais dire sur le budget principal. Est-ce qu'il y a des questions ?
Eh bien, merci. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter là les chiffres. Avec mes remerciements pour Virginie Frex pour son intervention. Avec des remerciements chaleureux pour Isabelle Donia, qui a fait un gros boulot ces derniers temps pour mettre tout ça d'aplomb. Merci beaucoup. Elle est même venue travailler aujourd'hui, alors que d'habitude, le lundi, elle est... ne travaille pas, donc merci. Voilà, la suite concerne, je vais passer la parole à Marion, la création d'un poste de responsable des services techniques.
Merci bien. Bonsoir à tous. Donc je vais commencer donc par rappeler que effectivement c'est au conseil municipal de délibérer pour toutes les modifications concernant le tableau des effectifs. Alors ce soir je vais vous demander de voter pour la création d'un poste de responsable du service technique. En fait c'est encore une fois un jeu d'écriture comme on en a fait plusieurs. Pour passer ce poste existe déjà aujourd'hui. En catégorie B, et on aimerait donc le passer en catégorie C. C'est l'inverse, excusez-moi. Donc il existe déjà en catégorie C, et nous aimerions le passer en catégorie B. Voilà, donc il y a trois catégories dans la fonction publique, voilà, C, B et A. Et plus on va vers le A, et voilà, plus il y a de responsabilités. Et c'est vrai que le poste de responsable de service technique de la commune, ben, il y a beaucoup de responsabilités. Donc on aimerait le valoriser en le passant en catégorie B. Est-ce que vous avez des questions ? Et alors je vais vous demander de voter. Est-ce que quelqu'un est contre ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Je vous remercie. Au suivant. Je garde
le micro.
Je continue. Donc voilà, c'est toujours dans le cadre de l'évolution du tableau des effectifs. Donc là, je vais vous demander de voter ce soir pour la création des emplois saisonniers pour la piscine pour l'été 2022. Donc la piscine, ça concerne différents emplois. Le premier, ça va être donc un emploi contractuel de service technique pour tout ce qui est donc entretien de la piscine. Donc ça concerne un emploi à temps plein du 1er juin au 31 août à minima, voire au 30 septembre en fonction de comment se passe la saison. Voilà, donc ça c'est le premier emploi. Ensuite, pour la piscine en elle-même, on va ouvrir trois postes de maître-nageur. Donc un premier poste qui sera là, effectivement, j'ai pas précisé, donc cette année, la piscine, elle sera ouverte donc du 13 juin au 31 août 2022. Donc il y a un premier poste de maître-nageur qui est là à partir du 13 juin pour faire la surveillance des week-ends quand c'est ouvert au public, et également en semaine des scolaires qui viennent profiter de notre espace de piscine municipale. Il y a ensuite deux postes de maître nageur qui sont ouverts donc à partir du 3 juillet jusqu'au 31 août, la fermeture de la piscine. Pour la surveillance, voilà, en cas, parce que c'est pas toujours évident de trouver des maîtres nageurs, ils sont très demandés, ils sont pas forcément très nombreux. Donc si on n'arrive pas à trouver trois maîtres nageurs, on crée toujours un poste de surveillant de baignade diplômé. Donc c'est un BNSSA. Voilà, donc qui va compter du début juillet jusqu'au 31 août également. Enfin, le dernier poste par rapport à la piscine, donc c'est la tenue de la caisse, où là on crée encore quatre postes différents. Un premier poste qui prendra en charge les week-ends du mois de juin et le mois de juillet. Un deuxième poste pour le mois de juillet et deux postes pour le mois d'août. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Tout va bien. Alors je vais vous demander.
C'est quelque chose qui revient toutes les années. Avec...
Ben oui. Voilà, je sais, je suis obligée de quand même. Voilà. Comment?
Tu as parlé d'un poste d'agent d'entretien pour la piscine pendant la saison estivale?
Oui.
Qui n'est pas dans la liste, là.
Ah, dans laquelle? Alors, moi, je l'ai dans la délibération. J'ai la délibération sous les yeux, mais...
Mais il n'était pas dans ma liste sur le...
Ah,
sur la note de...
Oui, désolée. Ah oui, oui, c'est ça. Il y a eu un petit oubli sur la note. Mais dans la délibération qu'on va voter, il est bien inscrit. Voilà. Donc je vais vous demander de voter, s'il vous plaît. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Bien, bien, bien. La délibération suivante concerne l'indemnité des élus. Il y a des collectivités où les indemnités des élus sont totalement secrètes, mais nous on en parle tous les deux mois. Donc voilà, les choses sont tout à fait transparentes. Nous avons eu un petit problème de calcul, en fait, nous les avons votées la dernière fois le 13 décembre de l'année dernière, et il y a eu une inversion de chiffres, et la préfecture nous a fait remarquer qu'il fallait qu'on plafonne nos indemnités à un coefficient de 172,76 et qu'il fallait qu'on plafonne nos indemnités à un chiffre de 170,40, c'est un coefficient, hein, c'est pas des euros ou des dollars, hein, c'est 170,40, et on avait dépassé puisqu'on était à 172,76. Donc je demande, il y a le tableau qui s'affiche derrière, donc à diminuer l'ensemble des... Je vous demande donc à chacun de diminuer un peu vos indemnités suivant le tableau suivant. Voilà. C'est... Oui, Patrice, tu prends un micro. Ouais.
Alors, et notez, il ne faut pas dépasser 170,40.
Yes.
Ah oui, d'accord.
C'est
la colonne de droite. D'accord. Oui, c'est.
La préfecture avait calculé 172 et nous, on trouve 171,86. Donc après, le chiffre, donc c'est la colonne qui regroupe 170,40. Donc on rentre, donc ça fait des diminutions assez modestes.
Est-ce que vous avez des questions? Non, donc je vous propose de voter. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Ah, on ne sait pas, on hésite. Une abstention, combien? Deux abstentions? Trois? 1, 2, 3, 4. J'ai senti comme une petite... On hésite. Bien, je vous remercie. Adopté à l'unanimité, moins 4 voix. Nous allons parler maintenant de l'acquisition du terrain de la Sablière par Epora pour le compte de la commune. Marc, tu as un micro ?
Oui. C'est un peu mon problème, c'est que je ne sais pas lequel prendre. J'hésite longuement.
On les deux.
La commune de Diolfi a l'opportunité de procéder à l'acquisition de la parcelle numéro 125 de la section AO et de la parcelle 113 de la section AN. Alors, pour que vous puissiez bien situer et voir de quoi il s'agit, je vous ai à peu près à tous, enfin, je vous ai fait une petite photocopie du PLU. J'ai repéré la parcelle numéro 125. Parce que c'est la plus intéressante, et puis sur l'autre, j'ai pas écrit, parce qu'il y a déjà plein de... Le plan est déjà très chargé, donc ça serait pas ressorti. Mais la parcelle section AN, hein, numéro 13, c'est le petit triangle que j'ai dessiné, que j'ai fait sortir, qui est juste au-dessus. Hein. Donc il y a deux parcelles, celle où j'ai écrit 125, et puis le petit triangle qui est au-dessus, qui est un espace boisé classé. Voilà. Donc il s'agit d'un terrain situé au lieu-dit La Sablière, appartenant à Madame Céline Chastan, qui est en vente au prix de 325 000 francs. Le compte. Pourquoi dis-je ça, 325 000 francs? Excusez-moi, c'est la sénilité qui me. Donc 325 000 euros. Le contenu est le suivant, une parcelle, donc la 125 qui fait 10 767 mètres carrés, et la parcelle 13, section AN, toujours sur le même lieu dit la Sablière, donc parcelle attenante, mais qui n'est pas dans la même section, de 3 125 mètres carrés. Voilà. Alors, pour détailler un petit peu, d'abord sur l'aspect, sur l'intérêt urbanistique de l'achat de ce terrain. Alors déjà en termes de prix, donc ça fait un total de 13 892 mètres carrés. Mais vous voyez qu'une grande partie, donc en particulier la parcelle 13, et une partie de la parcelle 25 sont situées soit dans de l'espace boisé classé, soit dans de la zone à aléas géologiques. C'est-à-dire sur des zones qui craignent les effondrements, etc. D'ailleurs, si vous allez sur place, vous verrez qu'il y a, comme partout dans Diolfi, des grottes, des trucs. Bon, c'est la zone qui est limitée en jaune pour l'aléa faible et en rouge pour l'aléa fort. Donc ça, c'est à retirer de la parcelle réellement utilisable d'un point de vue construction, plus la R15 qui est aussi à retirer puisqu'elle correspond à un élargissement de voirie, hein, qui était sous une réserve foncière assez ancienne, hein, qui date donc de la création du PLU. Pour cet élargissement, mais puisqu'on achète la parcelle, ben, on pourra faire l'élargissement de la route prévue sans faire l'acquisition, puisqu'on l'aura déjà fait. Voilà. Donc ce qui nous fait, en fait, il nous reste d'utile à urbaniser. Donc si vous voulez, la partie qui est en hachuré gris, d'environ 7800 mètres carrés. Hein, alors c'est pas cette place, je ne suis pas au mètre carré près, puisque effectivement, ben, faut voir d'après le plan à peu près ce que ça donne. On y arrive à peu près en faisant un petit calcul de délimitation de surface sur le PLU à l'ordinateur. On est arrivé à 7800 mètres carrés. Donc le terrain a été acheté 325 000 euros, ce qui nous fait un prix brut de 30 euros du mètre carré. Mais du coup, il est quand même important. Non, c'est pas cher du tout. C'est pas cher. par rapport au prix pratiqué en général à Dolphy, mais puisqu'il n'y en a qu'une partie. Ah ben, voilà. Alors, ce qui nous fait pour la partie constructible, hein, donc en net, pour la partie constructible, les 7 800 m² vraiment utilisables, un prix de 41,66 € du mètre carré, ce qui reste dans des prix tout à fait raisonnables à Dolphy. Voilà. Donc nous on a dit bon, c'est une très bonne occasion parce que c'est très bien situé hein, par rapport proche du centre de Dolphy. Voilà. Donc le terrain va être acheté dans le cadre d'une convention de partenariat de la commune de Dolphy avec l'établissement public foncier Rhône-Alpes et Pora. En date du 28 juin 2021, cette convention a été signée et le terrain a été réévalué par les domaines, hein, parce que Epora travaille sous contrôle des domaines, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas acheter un terrain qui serait surestimé par rapport à la valeur des domaines, donc ça rentrait dans cette valeur. Voilà. Alors, Epora réalise le portage financier de l'achat du terrain et nous avons 4 ans pour rembourser Epora. C'est-à-dire que c'est évidemment pas offert. Hein, c'est un établissement public foncier qui est là pour aider les collectivités à avoir, premièrement, à lutter contre la spéculation foncière et puis à pouvoir monter des projets. Donc nous avons 4 ans pour rembourser Epora.
Marc, voilà, il faut qu'on avance un peu, Marc.
Oui, mais je trouve que c'est comme je suis passionné d'urbanisme, je prends le temps d'expliquer cette chose importante parce que c'est quand même 325 000 €. Voilà. Donc nous avons 4 ans pour monter ce projet et soit éventuellement le revendre à un promoteur ou mais de toute façon établir un cahier des charges très précis pour lequel nous allons travailler dès à présent.
Merci.
Ça va, est-ce qu'il y a des questions?
J'en ai une petite humeur.
Ah, toi aussi.
Non, tu as en partie répondu à ma question, mais là on est reparti pour 325 000 € de crédit. En fait, de crédit. On l'aura le crédit. En fait, d'emprunt, pardon, puisque d'ici 4 ans, il faudra quand même bien finir par payer. Mais moi, j'aurais aimé connaître la destination quand même, parce que investir dans 325 000 € en se disant on va réfléchir à quelque chose, je trouve que c'est un peu. Enfin, moi, avant d'acheter, je réfléchis.
Oui.
Mais... Je n'achète pas, je ne réfléchis pas après.
Bien évidemment qu'on a réfléchi.
L'objectif, voilà. L'objectif est de mettre en place un cahier des charges pour que ce qui se construise prochainement sur ce terrain soit en accord avec un certain nombre de principes qu'on est en train de discuter avec Epora. Donc c'est pas forcé qu'il y ait un emprunt. Marc l'a évoqué, peut-être que ce sera revendu à un lotisseur, enfin quelqu'un qui construit, un constructeur, mais avec un cahier des charges qui sera lié à ce terrain. Donc avec des exigences en termes de construction, voilà, ce sera pas libre accès à ce qu'on
veut. Pour être très très précis, d'un point de vue urbanistique, vous voyez que cette zone HRE grise est une zone AUB. Hein? C'est-à-dire que ça signifie que c'est une zone pour laquelle il doit y avoir obligatoirement une OAP, c'est-à-dire une opération d'urbanisme avec un cahier des charges. C'est-à-dire que c'est pas un terrain qui peut être vendu comme ça pour faire ce qu'on veut. C'est avec un règlement, il y aura un règlement très très précis pour lequel Epora nous épaule, puisqu'ils ont aussi une partie dans leur rôle, une partie d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
Alors soit je comprends pas, soit, mais en fait ça fait doublon, quoi. Puisque ce terrain, de par sa classification, dépend d'un cahier des charges particulier.
Oui.
Et là, on demande à Epora de travailler sur le cahier des charges, alors qu'il est déjà quelque part, entre parenthèses, cadré. Non, alors je ne comprends pas ce que tu veux dire. L'OAP dit. Enfin, moi, ce qui me chagrine, ouais, si vous voulez, dans le truc, c'est qu'en fait, dans l'histoire, c'est qu'en fait, dépenser de l'argent public sans savoir ce qu'on va en faire.
Mais on sait tout à fait ce qu'on va faire. On va faire du logement, c'est évident.
Oui, mais qu'on fasse du logement, bien compris. Et heureusement qu'on va faire du logement, puisque c'est une zone faite pour.
Après, à savoir quelle est la destination de ce logement. Parce que nous, on a plein d'idées aussi.
Nous.
Qui correspondent peut-être
l'OAP, pas forcément. L'OAP définit un certain nombre de choses, de règles. Elle définit le fait que l'ensemble de la zone doit, l'ensemble de la zone que Marc a distribuée là, doit répondre aux mêmes exigences. Première chose. Deuxième chose, que l'accès général au terrain numéro 125 doit se faire est-ouest. Troisième chose, qu'il y ait entre 24 et 25 logements sur ce terrain, sur cet hectare-là.
On est d'accord. Mais ça, j'ai compris.
Voilà. Ça ne donne pas du tout d'exigence sur l'isolation, sur la forme que va prendre, les matériaux, la récupération des eaux, la présence de jardin, voilà. Donc c'est là-dessus qu'on souhaite mettre en place une opération, j'ai envie de dire exemplaire, il ne faut pas être
vertueuse,
trop prétentieux.
Vertueuse. Environnementale, ouais. Voilà. Et du point de vue social, c'est-à-dire que ça soit un terrain sur lequel nous, on va définir, on va définir nos conditions pour soit revendre le terrain, soit éventuellement le louer sous forme de bail emphytéotique à un investisseur, mais qui respectera un cahier des charges et des conditions que nous, on va définir concernant les matériaux, concernant les loyers, concernant l'accessibilité à des personnes modestes avec de la TVA réduite, etc. etc. Voilà. De toute façon, ça sera pour faire du logement, bien évidemment.
Autre question ? Oui, Patrice.
Donc, ce que je comprends, c'est priorité à la primo-accession.
Pas forcément. A priori, oui, il y aura de la primo-accession.
Donc, on sera sur des parcelles
très demandées aujourd'hui.
Ben, c'est un peu stratégique pour Dolphy.
Voilà,
exactement. Dire, si la commune ne fait pas des parcelles pour la primo-accession,
ça serait dommage.
Notre jeunesse, hein.
Et en même temps. En même temps, il faudra aussi peut-être on y intégrera de la location. Et puis nous, on sera très 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 vigilants à ce que effectivement l'investisseur puisse faire des logements qui soient accessibles aux personnes modestes. C'est l'intérêt essentiel.
Et donc on serait sur des parcelles à peu près 300 mètres carrés.
Hein. Non, ça ne sera pas forcément des parcelles.
Je ne sais pas, si je fais 24 à peu près, ça fait 3 sur 8000 mètres carrés.
Non, mais on risque d'être sur du semi-bien collectif ou de l'habitat intermédiaire. C'est-à-dire qu'il ne se définira pas en parcelles où chacun fait son bout de pavillon ou le promoteur il fait sa petite, maison qu'il va vendre individuellement. Ça doit être un projet d'ensemble, avec a priori l'habitat intermédiaire. Hein, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'habitat intermédiaire, c'est quand on a un peu reprendre le concept de l'ancien. C'est quand on a des maisons groupées, mais chaque maison, chaque logement a un accès indépendant. Mais ils peuvent être éventuellement superposés, avec un petit bout de jardin, loggia, balcon, voilà.
Très bien. On fait voter Oui, Annie.
Juste Sylvain, j'ai entendu que vous aviez des idées et que c'est toujours bien que vous nous les communiquiez, peut-être pas forcément là tout de suite, mais franchement, on est là pour œuvrer ensemble, hein, pour Dolphy, donc vos idées sont les bienvenues.
L'idée, Patrice en a parlé, c'est la primo-accession, ça,
on le sait. C'est évident.
Donc, je ne vais quand même pas vous dire quels seraient nos projets aussi, parce que... La direction que l'on souhaite, forcément, c'est ça. On sait que sur Dolphy, un jeune Dolphytois ne peut plus se loger. Vous l'avez tous bien compris, bien vu.
Ben oui.
Donc si nous, mairie, enfin élus, on ne fait rien pour ça, on perd nos jeunes. Donc on les verra partir sur Montélimar, on les verra partir à des endroits où ils vont pouvoir trouver quelque chose.
Donc c'est pas si mal d'acheter ce terrain pour avoir la main sur la
terre. Et aller très vite,
c'est une réalisation. Mais moi, j'ai quand même ça. Mais après, c'est votre choix.
Allons-y.
Et bien évidemment, il y aura un groupe de travail là-dessus. Pour l'instant, on prend les conseils des droits. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Et qui vote pour ?
Merci,
je vous remercie.
Merci. La délibération suivante concerne le... encore Epora et encore la charge. Et je donne la parole à Jacques qui va nous expliquer de quoi il retourne.
Oui, alors là, directement, on sait pourquoi on achète. Dans le cadre des missions de partenariat que la commune de Dieulefit a contractées avec l'établissement Epora, la commune souhaite réaliser l'acquisition de l'ancienne pharmacie. La pharmacie, donc, qui se tient juste avant le pont. La commune envisage l'installation dans ses locaux de la maison France Service. C'est un dossier qui nous tient particulièrement à cœur, de manière à mettre à la disposition des citoyens des lieux où on peut quand même avoir un minimum de renseignements sur les différentes administrations. Et ce lieu, en principe, serait porté par l'association Le Lien 26. Alors, l'estimation réalisée par France Domaine permet à Epora d'acheter ce bien. Dans le respect de son cahier des charges, la commune s'engage à rembourser Epora en une seule fois cet achat dans un délai de 4 années de portage. Et c'est, le prix est de 100 000 euros. Voilà. Donc, y a-t-il des questions ? On avait déjà largement débattu précédemment de ce projet. Bon, donc je mets aux voix. Qui est contre ?
Enfin, je ne sais pas si on a débattu, mais enfin, je m'en souviens pas.
Si, on avait présenté dans un premier préconseil, avait été présenté le dossier. Très, très largement, je pense. Voilà. Bon. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. Et donc, qui est pour ?
Alors, je veux simplement vous dire pourquoi je suis pour cette fois-ci quand même, parce que c'est bien aussi de le dire. Parce que justement, là en face, il y a un projet. Et il y a un projet qui sert à la population, etc. Une maison France Service, on en a besoin sur notre territoire, en l'occurrence, et son territoire. Voilà le pourquoi de mon vote. Voilà. Merci. Délibération suivante concerne la convention avec le collège.
Oui, alors je reprends le micro. Donc je vais vous demander de voter, d'autoriser monsieur le maire à signer une convention avec le collège sur relative à l'organisation de mesures de responsabilisation. Donc on a été sollicité par le collège pour qu'on signe cette convention ensemble pour que la commune devienne structure d'accueil pour des élèves, donc dans le cadre de mesures de responsabilisation. Les mesures de responsabilisation, en fait, c'est des mesures disciplinaires. C'est pour essayer de modifier un peu les sanctions aujourd'hui mises en place, donc en faisant faire aux élèves, hors temps scolaire, des travaux dans différentes structures. Donc, par exemple, à la commune, ça peut être des travaux périscolaires, au service technique, à l'entretien des espaces verts, ça peut être à la médiathèque. Voilà, ça sera vraiment vu avec le collège au cas par cas en fonction de la mesure de responsabilisation qui a été prise pour tel jeune, pour tel acte qu'il aura effectué. Voilà, je ne sais pas si j'ai besoin de préciser des choses. Est-ce que vous avez des questions ? Plus ? Oui.
J'aimerais bien voir cette convention. Elle n'était pas dans
le... J'aimerais bien voir le contenu de cette convention. Ça serait bien.
Alors, elle a été...
Elle a été envoyée avec les documents.
Non. Elle faisait partie des documents qui étaient envoyés avec la note de synthèse. Sauf erreur de ma part.
Je pense que c'est une erreur de ma part. Mais bon, en fait.
Ce que je peux faire, c'est que. Est-ce que tu l'as sur l'ordinateur ? Si tu veux, on lit les grandes lignes, au moins maintenant, si ça vous va. Parce que c'est vrai que le collège, elle a déjà. L'a déjà voté donc à son dernier conseil d'administration là du 3 février, donc c'est chouette si on peut le mettre en place rapidement. En fait, la convention, elle a surtout objet de cadrer cette mesure de responsabilisation.
Vous l'avez retrouvée ?
Vous l'avez reçue ? D'accord, ok.
Merci,
Nadia. Donc, je passe les... Voilà, je passe au vote. Très bien. Après, si vous voulez quand même des précisions, je peux quand même vous en faire. Christophe a une question pour... Rendez le micro, s'il vous plaît.
Oui, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Mesure de responsabilisation, c'est des travaux d'intérêt généraux dans le cadre de sanctions ?
C'est ça, tout à fait. C'est une façon un peu plus jolie de le dire pour des jeunes de 11 à 15 ans.
Le collège, de temps en temps, se retrouve, de temps en temps, c'est heureusement pas habituel, avec des jeunes dont une exclusion serait totalement anti... efficace, enfin, voilà. Donc l'idée, c'est de, pour certains d'entre eux, sur des choses un peu particulières, de mettre la commune au travail, les services techniques en particulier, pour admettre ce jeune pendant quelques jours, pour essayer de lui remettre des, voilà, un peu de plomb dans la cervelle.
Oui, puis c'est une phase, enfin, pédagogiquement, c'est très intéressant
l'idée est très
de passer bonne. Par là. Voilà. Ouais. Ça les valorise, ça leur montre ce qu'ils sont capables de faire. C'est très intéressant. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres demandes de précision, je vais faire voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Un contre, deux abstentions.
C'est ça.
On est d'accord ?
C'est ça.
Très bien. Merci beaucoup.
Bien, la dernière délibération concerne donc celle que c'est donc la délibération que je vous ai demandé de rajouter à l'ordre du jour. Concerne le renforcement du réseau Bastension à partir du poste Les Cèdres. Marc ?
Oui.
On me souffle.
Oui, je vais essayer.
C'est ça.
Je vais essayer d'aller vite ce coup-là.
Hein ?
C'est ça.
Parce que.
Bon, non, mais c'est une. On a confiance.
C'est une délibération qui concerne le ZED. Qui a étudié un projet de développement du réseau de distribution publique d'électricité sur la commune, dont les caractéristiques financières sont les suivantes. C'est un projet qui coûte 90 830,81 €, dont les frais de gestion 4 000 et quelques, et c'est financé à 100% par le SDED, donc la participation communale est de zéro. Donc on peut difficilement dire non. L'extension de ce réseau, l'extension et renforcement de réseau correspond à la construction par le SIEA du bassin d'orage, donc qui est situé derrière le camping Yellow Village, à côté du tennis club du Jabron. Donc un bassin d'orage qui est destiné à recevoir les excédents d'eau en cas d'orage qui sature le réseau d'eau usée. Voilà. Donc ça nécessite pas mal d'électricité parce qu'il faut pouvoir repomper, brasser, etc. Voilà, donc ce renforcement de réseau que je vais soumettre au vote. Qui vote pour ? Je crois que ça fait l'unanimité, non, si je... Non, ah, pardon, excuse-moi, Camille. Qui s'abstient ? Donc, une abstention.
Parfait. Merci. On en arrive au compte-rendu des décisions du maire. Donc, décision numéro 02-2022. J'ai signé une commande pour la restauration de 5 toiles marouflées de l'église qui avaient été abîmées par l'incendie, ce qu'on appelle des toiles de Wilkinson. par l'entreprise Malfatto à Étoile-sur-Rhône pour un montant de 29 000 euros. La décision suivante, l'acceptation d'un don de 500 euros de la Société de sauvegarde des monuments anciens de la Drôme pour la réfection, pour financer en partie la réfection de la porte de la chapelle Saint-Maurice. La suivante, l'acceptation de l'indemnisation par l'assurance Groupama des dégâts suite au sinistre survenu à l'église pour un montant de 189 896,68 euros. La décision du 3 février, la commande pour les vérifications périodiques, hydrauliques, équipement des aires de jeux sportifs, système de sécurité, incendie et légionnel pour une durée de 4 ans auprès de l'entreprise d'écrans industriels à Valence pour un montant de 8 840 euros. Un avenant du 8 février 2022, un avenant à la convention d'occupation précaire d'un appartement au Glacier. Le 21 février, une demande d'aide financière dans le cadre du dispositif DETR de la sous-préfecture pour le projet du skatepark, deuxième tranche. Le 21 février aussi, une demande d'aide financière dans le cadre du dispositif DETR pour le projet de construction d'un local de stockage pour les services techniques. La décision du 21 février toujours de demande d'aide financière dans le cadre du dispositif DETR pour le projet de restructuration d'un local en plusieurs espaces destinés à accueillir des associations caritatives et autres. Il s'agit des travaux de Top Garage. Voilà, je vous remercie. Nous allons évoquer les questions diverses. Je passe la parole à Jacques.
Alors, en matière de questions diverses, compte tenu de l'ordre du jour qui était très chargé, on a décidé de repousser ça à la fin. Mais c'est malheureusement pas une question diverse. Donc, en solidarité avec l'Ukraine, je vous demande de vous lever pour une minute de silence pour la paix et pour tous les morts des conflits qui endeuillent notre planète. Bien, je vous remercie. Alors, il s'agit peut-être de petits gestes que certains pourront trouver qui ne sont pas efficaces. On a quand même des retours indirects par des Ukrainiens qui nous disent que c'est vraiment l'un des éléments qui nous permet aussi, nous, de résister et de vraiment faire face à ce conflit dévastateur. Alors, quelques informations en ce qui concerne justement l'Ukraine. La situation dans la Drôme, le terme officiel sera celui de déplacés ukrainiens. Il y a un mécanisme de protection temporaire, séjour provisoire de 6 mois, qui sera éventuellement renouvelable jusqu'à 3 ans. Ce ne sont pas des demandeurs d'asile. Par ailleurs, il y a un mouvement de solidarité en ce qui concerne l'éventuel accueil. Il y a des possibilités. Nous avons décidé à la mairie de constituer un comité que je présiderai et avec des membres du CCAS et des membres des associations qui sont concernées, en particulier Espoir, Passerelle et puis toutes les autres associations de solidarité. Ce comité se réunit demain à 10h30 en mairie. Pour ce qui concerne l'hébergement, il y a deux possibilités. Il y a une possibilité soit d'aller directement se déclarer sur un site qui est en préfecture, mais on a décidé aussi de faire un questionnaire qu'on peut retirer à la mairie et qui sera ensuite transmis en préfecture. Et c'est la ville remontera les propositions à la préfecture de la Drôme, qui ensuite est seule habilitée à traiter des dossiers éventuels d'hébergement et qui donnera non suite à ces propositions. Voilà, en ce qui concerne donc, malheureusement...
Jacques,
oui.
Excuse-moi, est-ce que tu pourrais préciser, parce que j'ai tapé préfecture, accueil, ukrainien, j'ai pas trouvé, est-ce que tu as l'adresse?
Oui, malheureusement, pour le moment, sur la préfecture, il n'y a pas grand-chose. C'est pour le moment, on peut enregistrer sur un site qui est national
et qui s'appelle pour une personne morale, pour une personne physique, HTTPS, bon, etc. parrainage.réfugié.info bénévole. Bon, on le mettra de toute manière sur le site de la mairie. De plus en plus, nous mettons des informations sur le site de la mairie, c'est relativement facile, et on mettra sans doute un lien qui permettra d'aller directement sur ce site. Mais on peut tout simplement aussi passer en mairie et retirer un imprimé et donner, remettre l'imprimé ensuite à la mairie, et nous transmettrons en préfecture. C'est la préfecture, comme je l'ai dit, qui se charge de donner l'aval ou non. Voilà.
On mettra peut-être dans la lettre d'info qu'on envoie régulièrement.
Oui, aussi. Jacques, oui. Tu peux nous dire quelque chose sur l'appel à contribution possible en collecte chez les pompiers?
Alors, l'appel à collectivité, à la contribution à des dons chez les pompiers, il s'agissait d'un accord entre l'Association des maires de France et la protection civile qui faisait que les locaux des pompiers, les casernes de pompiers, étaient aptes à recueillir des dons, mais d'une manière bien particulière, il fallait que ces dons soient dans des cartons bien fermés et sur lesquels il devait y avoir la nature du don. En ce qui nous concerne, les pompiers ont ouvert la semaine dernière leur caserne donc pour réceptionner ces dons, mais ils sont littéralement débordés. Il y avait 8 camions qui étaient prévus au départ de la Drôme. Ont même peut-être plus que les camions ne peuvent en emmener, et donc il a été décidé de surseoir à le dépôt dans les casernes de pompiers. Voilà. Bon, donc je pense que malheureusement on va en rester là-dessus, et on va passer à quelque chose qui est peut-être un petit peu plus, oh, c'est peut-être pas joyeux, mais enfin quand même, c'est une opération qui devrait permettre à nos commerçants peut-être de se refaire un peu dans les jours prochains, les mois prochains, puisqu'il s'agit d'une opération qui s'appelle Village préféré des Français. Nous avons donc été sélectionnés pour participer à cette émission sur FR3. Alors en gros, comment ça se passe? Depuis le 1er mars jusqu'au 22 mars, il est possible de voter. Il faut aller sur le site pour le vote, et vous avez aussi sur le site de la mairie, il suffit de faire un clic sur le site de la mairie et vous allez de suite tomber là où vous pouvez voter. Le vote est très simple, il y a 14 photos, Diolfi est la première photo, vous cliquez sur la première photo et vous allez en bas, vous validez votre vote. Et ce qui est extrêmement important, qu'il faut bien diffuser autour de vous, c'est que je m'en suis étonné auprès de la production, parce qu'il est possible de voter plusieurs fois. Alors, la raison que donne la production, c'est que c'est pour mettre tout le monde au moins sur le même plan d'égalité, parce que sinon, il y avait des magouillages, etc. Donc là, tout le monde peut voter, et plusieurs fois, autant de fois que vous voulez. Donc voilà, vous y allez.
Non, c'est, voilà. C'est pas du tout des magouillages, hein. Pas du tout.
Voilà, c'est même... Voilà. Alors, ça se passe donc le 22 mars, le vote est fermé et la production fait le classement du 14e au 1er. Ça reste secret. Et entre la mi-avril et la mi-mai, l'équipe viendra faire une vidéo sur un jour ou sur deux jours de manière à pouvoir illustrer Diolfi. Et enfin, à la fin juin, début juillet, l'émission passera, alors comment je vais dire, en prime time. Bon, donc, passera en début de soirée, et c'est une émission qui aura été enregistrée et qui sera donc en différé. Et ça commencera par le 14e, puis le 13e, puis le 12e, etc. Donc on espère quand même ne pas être 14e. Simplement une petite référence, Mirmande, qui avait il y a quelques années participé, avait été 13e. Et puis la Garde à Démarre avait été dans un meilleur classement, je pense. Voilà. Alors pourquoi cette opération? Moi personnellement, je pense que c'est un moyen quand même de donner cet été pour nos commerçants peut-être un peu. Alors certains disent, ouais, ça va être l'afflux, etc. Oui, mais quand même. Hein. Bon, voilà. Y a-t-il des questions?
Non, je voulais. Je voulais simplement annoncer moi aussi la projection du film Debout les femmes, jeudi soir à la Halle, ici, à 20h. Donc venez nombreux, hommes et femmes, hein, tout le monde. On est tous invités. C'est sûr, c'est un film qui présente un petit peu les métiers du soin et de l'aide à domicile et qui permettra d'en débattre et de peut-être d'alerter sur les conditions un peu difficiles de ces métiers. Voilà, merci.
Et Camille nous fait répéter le chant demain à 11h, Tâche à Torah. Alors, pour ceux qui ont envie de chanter.
Attends, j'avais juste une question à propos de Boulet Femmes. J'ai vu dans la lettre d'information que ça se passait à la Halle et qu'il y avait à l'entrée de la Halle ne serait demandé ni le pass sanitaire ni la pose de masque. Ça me paraît un peu curieux pour un truc de solidarité. Ni masque, ni passe.
D'abord, c'est vrai que c'est 3 jours avant le 14, donc c'est pas non plus. Non, c'est pas révolutionnaire. Et ensuite, c'est dans le cadre c'est une soirée dans le cadre des élections, de la préparation des élections présidentielles. Donc dans ce cadre-là, il n'y a pas de passe et il n'y a pas de masque le jour des. Enfin, pas de masque. Si, il y a des masques. Il n'y a pas de passe. Il n'y a pas de passe, mais il y a masque.
Que sur le pass.
C'est que le pass, il y a masque, hein. Il y a masque. Oui, oui.
Alors, une dernière petite précision que j'ai omis en ce qui concerne le village préféré des Français. Nous avons été contactés par Radio Bleu Drôme-Ardèche et la veille de la clôture, ils viendront faire ce qu'ils appellent le fil rouge, c'est-à-dire de 6h à 10h le matin. 6 fois, 2 minutes seront consacrées à Diolfi et à des gens qui seront présentés sur Diolfi. Voilà. Il y aura aussi sur l'émission FR3 Auvergne-Rhône-Alpes, il y aura aussi référence à cela.
Oui. Patrice ?
Il faut que je pose la question, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Donc, il y a eu des panneaux signalétiques qu'on pose. Été posé près des écoles pour faire ralentir et pour avertir
30 à l'heure,
et puis aussi j'ai eu des jolis panneaux, hein. Donc ça c'est concerné les écoles publiques. La question est-ce que pour l'école privée c'est programmé ou...
Alors c'est une opération qui ne concerne pas, enfin, pas clairement seulement les écoles. C'est une opération qui vise à ralentir les voitures depuis le rétrécissement de la rue des Raymonds du Lavoir jusqu'au rond-point des écoles. On a décidé de passer toute cette partie en 30 à l'heure et d'expérimenter, avec l'accord du département, des solutions techniques qui fassent que, dans la mesure du possible, les voitures ralentissent. Ces solutions techniques, elles sont au nombre de 2, c'est-à-dire qu'il y a 2 écluses qui vont être placées, une à peu près au niveau de Top Garage. Les écluses, c'est des endroits où les voitures ne peuvent pas se croiser, donc elles sont obligées d'attendre que l'autre passe. Donc une au niveau de Top Garage et une dans la rue Gabriel-Péry, à peu près, ou, je dirais, un tiers inférieur, pour essayer de ralentir sans que tout Diolfi soit bloqué. Hein. Voilà. Donc les bus pourront passer. C'est une expérimentation. Le département nous a demandé de faire d'abord un essai, pour, notamment sur la partie Gabriel-Péry, pour voir si les bus ne bloquent pas tout. Hein. Donc on va faire ça au mieux. Et puis la deuxième partie de l'opération, c'est de matérialiser une voie cyclable montante dans toute la montée des Raymonds, jusqu'au rétrécissement, là aussi jusqu'au lavoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre 2 voies cyclables, montées et descentes. Ça représente quand même 1,50 m de largeur. Par contre, il nous a semblé intéressant de tenter cette expérience au moins dans la partie montante, qui est donc la partie où les vélos vont moins vite, de réserver une voie pour les cycles. Voilà. Et donc, ça va avec les 30 à l'heure, parce que les choses sont claires, de mettre un panneau 30 à l'heure n'a jamais ralenti les voitures. Il faut qu'il y ait des aménagements qui vont avec et qui fassent que les gens sentent qu'il faut ralentir. Voilà. Donc, c'est un premier pas. En parallèle, on a diligenté des comptages sur les principaux accès de la... les principales voies de Diolfi, pour essayer d'avoir une vision un petit peu plus globale de la circulation dans Diolfi. Et là, notamment, pourra s'intégrer la rue des Hirondelles, la rue de Sainte-Marie, l'ensemble des voies de Diolfi, réfléchir au double sens, au sens unique, à la circulation de manière générale dans Diolfi.
Juste le boulevard périphérique, quand on sort du collège et qu'on prend la déviation vers Bordeaux, c'est une départementale et celle-là, elle est à 70 à l'heure. Et est-ce qu'il y a un moyen de la passer à 50, celle-là, par hasard?
Alors, on y a réfléchi. C'est dommage, Marie-Madeleine et Leclerc n'est pas là, mais elle pourrait y répondre mieux que moi. La difficulté, c'est qu'il y a une partie avec des trottoirs qui est à peu près aménagée comme un endroit de ville, mais il y a une partie après le Silva qui n'est pas du tout aménagée. Et donc, 2 mètres à 50 à l'heure sur cette partie-là, d'après le département, c'est totalement... s'il n'y a pas des aménagements, voilà. Ça ne marchera pas.
C'est parce qu'eux, ils expliquent qu'un 50 à l'heure fonctionne, a des chances d'être un peu respecté si l'aspect de la route, l'aspect général de la route n'est pas campagnard. Sinon, les gens, ils continuent de rouler à 70, 80. Voilà. Donc, eux, ils sont fermement opposés, de même qu'ils sont assez opposés, puisque là, c'est leur territoire, à la création de passages piétons.
Voilà. En parallèle, la communauté de communes est en train de réfléchir sur un aménagement de pistes cyclables global sur l'ensemble de la Comcom, avec des voies prioritaires pour mettre des pistes cyclables. Là, l'Edliche me semble être un endroit où il devrait y avoir des pistes cyclables. Donc, on attend le résultat de cette consultation au niveau de la Comcom pour prévoir des aménagements à l'Edliche et éventuellement déplacer les panneaux Diolfi pour que ce soit en 50 à l'heure, pouvoir mettre des passages cloutés et pouvoir faire que les voitures ralentissent. Ce sont des questions diverses qui sont importantes. J'en avais une autre qui est importante aussi. La Comcom organise, à l'attention des élus, une visite du centre de tri qui est à Porte-les-Valences. On met consciencieusement nos déchets dans des containers, et notamment le container du tri. Et ça me semblait important, parce que je l'ai demandé... au vice-président Philippe Bérard, d'organiser une visite dans ce centre. C'est un nouveau centre, puisqu'auparavant on allait à Nîmes, et qui est aujourd'hui apte à nous recevoir. Donc il y a une visite qui est organisée le 31 mars, au matin, entre 8h30 et 13h30, si certains élus sont intéressés, qu'ils le signalent, peut-être à Laurence, qui va nous centraliser ça. Excusez-moi, je t'en ai pas parlé, mais...
J'ai transféré l'email de Philippe Bérard et Philippe Bérard se propose de recueillir lui-même les demandes, les besoins, les envies. Donc.
Parfait. Autre question ? Ça va ? Je déclare clôturer cette séance de conseil municipal. Est-ce que quelqu'un a quelques questions dans le public ? Ça va, Josiane, ça va?
Merci Annie, à tous. Tu veux pas faire un appel à carnaval?
Ah, un appel à carnaval. Annie. Je voulais juste saluer, tant que j'ai la parole, je voulais juste saluer les gens qui sont à la vidéo. Et un appel à carnaval, je vous en prie.
Donc, le 26 mars, qui est un samedi, à partir de 14h, il y aura deux départs du carnaval, l'un va partir des HLM et l'autre du Jinché. On va se retrouver place Châteaurat. Il y aura des marionnettes géantes dans les deux cortèges. Du maquillage au départ, et on peut avoir besoin de petites mains pour l'aide au maquillage, donc vers plutôt 13h30. Puis il y aura une grande déambulation avec deux groupes, la Bola et le KM, avec de la danse, puis le Carmontran sur la place de l'hôpital et le Javron. Et tout cela sera tout à fait... Comment ?
Et les danses africaines.
Et tout cela sera très joyeux. Et qu'est-ce que je voulais... Donc on a besoin aussi de petites mains. Il y a une réunion de préparation pour les petites mains, mais je ne l'ai pas dans ma tête. Mais vous devez la voir quelque part. Fred, il va nous donner ça. Voilà, donc venez avec vos enfants, vos petits-enfants. C'est un carnaval de poils et de plumes dont vous pouvez aussi... trouver ce qu'il faut dans la thématique.